d'après mon heure. Qui est-ce qui a l'heure exacte ?
11h.
11h. Bah, je propose qu'on fasse l'heure exacte, parce que la probabilité qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent, je pense qu'elle n'est pas très très grande. Donc là ça tourne ? Non, moi je m'entends. Merci. Bon, ben, on remercie énormément les personnes qui sont venues. Et l'organisation, ça va être chacun, donc les cinq participants à la table ronde, vont d'abord faire un petit exposé d'une dizaine de minutes, chacun sur des thèmes différents. Et l'idée, c'est qu'on va vous montrer des plateformes qui existent, qui sont liées, la plupart sont en open source, même toutes, je crois. Et on va essayer de vous montrer comment fonctionne aujourd'hui dans le domaine de la recherche le système actuel, qui est essentiellement en continuité avec l'imprimerie, parce que simplement les publications scientifiques traditionnellement étaient imprimées et on n'avait pas de web, donc les chercheurs allaient en bibliothèque. Les bibliothèques jouaient un rôle central, c'était le seul endroit où on accédait aux publications scientifiques. Mais tout a changé à la fin, je m'amuse toujours à dire, du précédent millénaire. En gros, vers les années 90, on a eu le web, et on a eu l'édition électronique, on a eu les articles sous forme électronique, et la question c'est, est-ce que le modèle de l'imprimerie que les publishers nous imposent a un sens quand on fait de l'édition électronique ? Alors, je fais tout de suite une précision terminologique. Vous allez m'entendre dire « publisher ». Pourquoi ? Ça a l'air un petit peu anglicisme, mais pas vraiment, parce que c'est une racine française quand même. Publier, c'est rendre public. Pourquoi je dis publisher ? Parce que dans l'édition scientifique, et Benoît va vous l'expliquer plus en détail que moi, là, ici, on ne parle essentiellement que des, ce qu'on appelle des revues à comité de lecture. Parce que comme vous le savez tous, les revues scientifiques, les chercheurs écrivent des articles, mais c'est validé par les pairs. C'est la notion de peer reviewing. Donc, le modèle de ce système, c'est que les chercheurs envoient leur article à un journal. C'est eux qui choisissent dans quel journal, mais les membres du comité éditorial du journal sont en charge du peer reviewing, c'est-à-dire connaissent très bien le sujet et très bien la communauté de ce sujet précis, et ils l'envoient à des spécialistes qu'on appelle les editors en anglais. Donc, je propose qu'en français, on dise éditeurs, parce que là, on parle de chercheurs qui sont payés par leur employeur. Bon, en France, c'est toujours un organisme public, et qui ne demande pas à être payé par le publisher, c'est-à-dire qu'on travaille gratuitement pour le publisher. Et le publisher, lui, quand l'article finalement a été accepté, ça part chez le publisher, et ça, Benoît va m'expliquer, qu'a la gentille idée de demander aux auteurs, donc aux chercheurs, de leur transmettre tous leurs droits exclusivement, donc ils ont la possession des articles, pour 70 ans après la mort du dernier co-auteur à mourir. Ça fait quand même une trotte, ça fait plus de 100 ans de recherche qui sont clips, sous paywall, et donc eux, je les appelle publishers. Mais ça, c'est le modèle qui vient de l'imprimerie. Donc ce dont on va discuter ici, c'est est-ce qu'on va pouvoir aller vers un nouveau modèle adapté à l'édition électronique, et aussi qui va faire évoluer tout ce qu'on appelle publier, c'est-à-dire rendre public les résultats de la recherche. Ça veut dire qu'on parle des articles, mais la notion d'article va certainement évoluer très largement, et on parle aussi des données, c'est-à-dire les données pour l'instant, on parle des données qui sont liées aux articles. Pour la validation des articles, c'est très important d'avoir accès aux données avec lesquelles les articles ont été faits, et aussi aux logiciels, c'est-à-dire les codes qui sont utilisés, soit parce qu'on a par exemple des simulations numériques dont les articles montrent les résultats, soit on a des données, mais lire les données, ça passe par des codes. Bref, vous m'avez comprise. La notion maintenant de publication est beaucoup plus large que simplement les articles. C'est vraiment les articles, plus les données, plus les logiciels. Et donc, c'est pour ça que dans la table ronde, on va avoir plusieurs exposés de personnes qui vont vous parler plutôt de l'aspect publication des articles, mais aussi l'aspect données de la recherche, accès ouvert aux données de la recherche. Donc, je suis ravie de donner d'abord la parole à Benoît Flöckner, qui est à l'université Paris-Créteil, et qui est un mathématicien très impliqué dans comment on fait la transition et comment on va vers l'open access.
D'accord.
Et il va vous d'abord vous introduire un petit peu comment on fait, en imaginant que dans la salle, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas directement dans la recherche. Et on va... La recherche est très spécifique, hein. On n'est pas comme quelqu'un qui publie un livre et qui vit avec ses droits d'auteur sur le livre. Nous, on est payé par notre institution, donc on a un salaire et on ne demande pas d'être payé pour nos articles. Par contre, on aimerait bien qu'ils soient ouverts. Merci Benoît.
Merci Marie. On a l'occasion de raconter ces choses-là. Donc je vais vous parler d'un projet en cours et d'un projet en gestation. Moi, je fais partie du projet en gestation qui est directement relié au projet en cours. Mais c'est un projet sur la publication scientifique, donc j'ai pensé que c'était pertinent de vous expliquer un petit peu d'abord comment on pratique, on publie des articles. Donc, comment est-ce qu'on publie de la science? En gros, on a un cycle de publication qui est le suivant. On a une chercheuse ou un chercheur, peu importe, mais j'utiliserai le féminin systématiquement. Peut-être pas à l'oral parce que j'ai pas forcément l'habitude. On a une chercheuse qui cherche puis trouve, qui a compris quelque chose, donc qui écrit ce qu'on peut appeler à ce stade-là une prépublication. Alors, c'est pas encore vraiment un article parce qu'il n'a pas encore été validé, il n'a pas encore été reconnu par la communauté. Et donc, elle va l'envoyer à des journaux qui vont le valider. J'y reviendrai un petit peu après. Donc, bon, parfois, là, je mets un seul journal. Ça peut arriver qu'on ait besoin de solliciter plusieurs journaux si notre article est refusé, ce qui arrive à tout le monde. Et puis, le journal, ensuite, fait son travail et sort ce qu'on appelle un article. Alors, la différence entre l'article ici et la prépublication n'est pas forcément extrêmement grande d'un point de vue physique, dans le fichier qui est produit. Il peut y avoir un certain nombre de différences techniques, mais la principale différence qui m'intéresse quand même, c'est le fait que l'article a été validé, c'est-à-dire qu'il a été relu. Et pourquoi c'est un cycle? Parce qu'évidemment, les chercheurs et chercheuses, pour faire leur travail, ont besoin de savoir ce que les autres ont fait, donc lisent la quantité d'articles qui ont été publiés avant. Alors, il faut rentrer un peu plus dans le détail de ce qui se passe quand on envoie dans un journal. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi c'est pas affiché comme il faut. Voilà, ce sera mieux. Donc, on a cette prépublication. La chercheuse va soumettre son article à un journal, mais en pratique, le journal, quelle est la personne qu'elle va contacter? C'est pas quelqu'un qui est payé par la maison d'édition, c'est quelqu'un que j'ai dessiné de la même façon, c'est une rédactrice. Donc, moi, j'utilise le terme rédacteur et rédactrice pour le comité de rédaction, ou le comité éditorial.
Ce que j'appelle pour... éditeur.
Voilà, ce qui est un anglicisme en pratique. Donc,
qui est donc. Ouais, mais c'est pas rédacteur, chercheuse. Parce que c'est l'auteur qui
peu importe.
L'article.
Donc, peu
moi,
importe.
Moi, j'insiste, c'est l'éditrice, hein.
Dans pas mal de revues françaises, c'est le comité de rédaction qui porte une... Donc cette rédactrice va solliciter des collègues à nouveau pour évaluer l'article. Donc ces collègues vont lire la prépublication et donner un avis à la rédactrice, qui va ensuite tirer une conclusion, soit que l'article peut être publié dans le journal, soit qu'il n'est pas adapté au journal, ou qu'il n'est pas assez bon, ou qu'il y a des choses à modifier. Donc elle donne une réponse à la chercheuse, disons que la réponse est positive, dans ce cas-là, elle envoie aussi la prépublication, en pratique c'est la chercheuse qui a fait le travail, au journal, qui va donc faire un travail de production et de publication sur un site web. Bon. Et au passage, la chercheuse va céder les droits sur l'article. Alors en France, elle n'a pas le droit de céder tous les droits, mais en pratique, elle cède les droits, elle ne cède pas sa propriété intellectuelle stricto sensu, mais elle cède tous les droits de diffusion et d'exploitation. Alors, il faut aussi voir comment circule l'argent dans ce modèle-là. Donc, le modèle principal que je suis en train de vous expliquer, ce qui se passe, c'est qu'on a donc des instituts, des universités où a lieu la recherche, qui a besoin d'accès aux articles et qui paye pour cet accès. Hein, donc on paye les maisons d'édition pour avoir accès à la littérature. Alors, là, c'est une vision que je trouve un petit peu plus juste du système. C'est-à-dire que le journal, la maison d'édition, ce qu'elle possède réellement, c'est le titre. Hein, le comité de rédaction ne travaille pas pour la maison d'édition, les gens qui évaluent l'article ne travaillent pas pour la maison d'édition, etc. Donc le journal, c'est une entité un peu hybride qui, en fait, est quelque chose qui est partagé sur toute la largeur, de l'université jusqu'à la maison d'édition. Alors, quelques problèmes que ce modèle pose, c'est que d'abord, on n'a pas d'accès universel à ce qu'on doit lire pour pouvoir chercher. Même Stanford ou Harvard ont en général des problèmes, on n'a pas accès à tout, ne paye pas les abonnements à tous les journaux de toutes les disciplines dans lesquelles ils ont des chercheurs, parce que ça fait un montant total qui devient excessif. Donc, ne pas avoir accès, c'est un gros problème. Un autre problème qu'il y a, c'est que finalement, ce sont des intérêts privés qui contrôlent la publication, puisqu'ils possèdent le titre et ils contrôlent tout le processus, y compris la production scientifique publique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour piler la science ouverte à l'heure actuelle? C'est quelque chose qui existe déjà. Il y a des précurseurs comme PLOS. Donc le processus scientifique est essentiellement le même qu'avant. Et puis, le flot de l'argent, lui, change. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on va publier en accès ouvert, donc la maison d'édition va se rémunérer autrement, va se rémunérer en demandant aux auteurs, aux chercheuses, de trouver un financement, c'est pour en général pas de leur poche, mais de leur université qui va payer, mais pour chaque article, pour avoir le droit de publier, on va donner un financement.
Alors, on va payer pour être publié.
Oui, voilà. Tout à fait. Donc ça résout un problème, c'est que maintenant ça donne l'accès, puisqu'on publie en accès ouvert, les articles sont accessibles à tout le monde, et donc on peut lire la littérature qui est publiée comme ça, tout le monde peut la lire. Hein, les chercheuses, mais aussi les personnes qui pourraient appliquer la recherche, qui pourraient innover à partir de cette recherche. Le problème, c'est qu'on n'a pas résolu le deuxième problème des intérêts privés qui contrôlent la production, et puis on a un choix de publication qui peut être influencé par le financement. Si on n'a pas les financements, on ne va pas pouvoir entrer dans ce système-là ou seulement à certaines conditions. Et donc on a rajouté des problèmes. Et donc je voudrais expliquer comment est-ce qu'on pourrait publier la science ouverte d'une façon qui ne rajoute pas ces problèmes-là. Et en fait, je vais enlever l'adjectif ouverte parce que je pense que c'est la seule façon, c'est la façon dont on devrait publier de la science tout court. Alors, donc il y a quatre principes qui nous paraissent importants, qu'on peut baptiser de faire open access ou publication libre, je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est pas seulement lié à l'accès. Donc le premier, c'est que les titres des revues doivent être possédés par la communauté scientifique. C'est la communauté scientifique qui doit avoir le contrôle sur le titre des revues. Les articles doivent être... Le titre du journal. Le fait que quand on a un journal qui s'appelle Mathematische Annalen, à l'heure actuelle, c'est Springer qui possède le nom. Oui. Personne d'autre ne peut dire... Le comité de rédaction n'a aucun droit sur le nom Mathematische Annalen, même si sont eux qui portent leur caution scientifique. Oui. Voilà, donc je pense que le titre devrait être possédé par la communauté scientifique, soit par le comité directement, soit par l'intermédiaire de sociétés savantes ou
de
fondations.
En fait.
Voilà, exactement. Ouais,
mais je peux surtout préciser le problème, c'est que si le comité éditorial n'est pas du tout content avec la politique du publisher, par exemple, en termes de prix, ils ont des prix d'abonnement qui sont devenus faramineux, ils ne peuvent pas partir. Parce que tout leur travail, les, mettons 30 ans de travail de ce comité éditorial, appartient au publisher. Et le titre appartenant au publisher, on est coincé. Ça, c'est le côté très grave de ce modèle.
Donc, on publie en accès ouvert, évidemment. Les droits sont gardés par les auteurs. On ne cède plus ses droits à une maison d'édition. Et on ne demande pas de financement aux auteurs. On ne veut pas que, dans le processus scientifique, l'argent interfère du tout. Alors, comment on peut faire ça? L'idée, c'est que les scientifiques soient en contrôle. On aura toujours besoin d'un service d'édition, mais dont le rôle est réduit, et qui va fournir un service technique et d'administration, qui va faire un travail technique sur le fichier qui est l'article, qui va faire un travail en temps de promotion, qui va faire un travail d'administration de la relecture par les pairs, etc., qui va venir en support. Mais tout le reste est en bleu, c'est-à-dire dans le milieu académique. D'accord ? Avec un organisme qui va à la fois collecter l'argent au niveau des bibliothèques, par exemple, au lieu que les bibliothèques payent des abonnements ou que les institutions payent des droits pour publier, et puis qui ensuite rémunérera des services d'édition qu'on pourra plus facilement mettre en concurrence, notamment. Alors, ça règle, a priori, les problèmes que j'avais soulignés. Et je veux souligner un point qui m'importe beaucoup, c'est que souvent, c'est une question qui est vue sous l'angle, et c'est vrai aussi d'ailleurs du logiciel open source, sous un angle éthique, qui est perçu au moins son angle éthique. Et pour moi, c'est important, je pense qu'il y a des questions éthiques derrière, mais c'est même pas la priorité, ne serait-ce que parce que si je veux convaincre mes collègues, c'est pas le plus efficace, c'est juste une question d'efficacité. On veut faire les choses de façon à ce que ça marche bien, qu'on ne perde pas du temps dans des choses idiotes et absurdes. Par exemple, perdre du temps parce qu'on doit accéder à 3 journaux de 3 façons différentes en cliquant dans 3 directions différentes et en donnant des mots de passe différents ou je ne sais quoi. Ça, c'est absolument idiot. Alors, le problème, c'est qu'on a une transition à faire entre deux modèles. On n'a pas beaucoup d'argent disponible puisque l'argent est mobilisé dans le modèle précédent. Le nouveau modèle est moins rentable pour les maisons d'édition. Puisqu'elles vont être en concurrence, elles ne vont plus posséder les titres, donc elles n'ont plus le côté marque entre leurs mains. Et il y a une grosse inertie du système liée à l'évaluation, aux craintes des collègues, etc. Alors les 3 solutions qu'on peut tenter d'apporter, c'est d'abord, pour peu d'argent disponible, de transformer des journaux existants. Du coup, on n'aura plus besoin de payer leur abonnement, puisqu'on les aura transformés dans le nouveau modèle, et on pourra utiliser l'argent libéré par ces abonnements pour financer leur publication ouverte. Le fait que le nouveau modèle est moins rentable pour les maisons d'édition, eh ben, ça veut juste dire que s'ils ne sont pas d'accord, il faut qu'on accepte de les quitter et d'aller travailler avec des gens qui sont d'accord pour ces 4 principes du faire open access. Et puis sur l'inertie du système, la seule solution pour l'instant que je peux proposer, c'est d'essayer d'avoir un exemple à montrer avec des gens qui se passent dans ce système-là et qui disent que ce n'est pas si compliqué. Alors, j'en viens au projet qui est réel, enfin qui est en action à l'heure actuelle. Et j'aurai sans doute pas le temps de décrire ce qu'on va faire, mais ce sera exactement la même chose, l'objectif, donc c'est pas très grave. Donc Lingua était une des meilleures revues en linguistique. Le comité de rédaction a demandé à Elsevier de suivre les préceptes du Fair Open Access. Elsevier, donc Elsevier, c'est le plus gros éditeur scientifique. Sans beaucoup de surprise, Elsevier a répondu non, parce qu'il ne voulait pas céder le titre. Ils avaient mis beaucoup d'argent pour acquérir ce titre chez le précédent publisher qui publiait Lingua. Et puis, ils prétendent que les tarifs qui étaient mentionnés dans la proposition, le fait que les prix devaient être en rapport avec le travail effectivement effectué, étaient insoutenables. Bon, c'était peut-être insoutenable, mais le comité a démissionné et a fondé une nouvelle revue avec le même comité de rédaction, les mêmes standards, la même politique éditoriale. Donc en termes scientifiques, beaucoup de gens disent Glossa, c'est le nouvel Lingua. Lingua n'est pas mort puisqu'Elsevier a recruté un nouveau comité de rédaction, mais le comité de rédaction précédent, soit il avait de la valeur, et dans ce cas-là, la valeur est passée à Glossa, soit les gens sont interchangeables, et je ne sais pas pourquoi on se glorifie de participer à un comité de rédaction dans ce cas-là. Alors l'organisation de ce système passe avec deux organismes. Donc il y a une association, Stichting, parce que c'est néerlandais, qui est Lingua, qui va jouer le rôle de facilitateur, qui va trouver un financement de transition, donc ça c'est fait, qui a aidé le comité de rédaction dans ses démarches. Donc le directeur en chef du comité de rédaction est membre de cette association, le comité de rédaction de Glossa. Et puis il y a OLH, Open Library of Humanities, qui est une organisation caritative qui va, elle, organiser le financement pérenne sur le long terme avec les bibliothèques. Il y a vraiment deux phases, la transition et puis le financement pérenne, et qui va être vraiment travailler comme éditeur, publisher, en partenariat ou pas avec des maisons d'édition, des services d'édition. Pour l'instant, il travaille essentiellement en partenariat avec Ubiquiti Press, et je suis déjà en train de déborder, donc je vais me dépêcher. Il faut que je vous parle quand même un petit peu de logiciel. Pourquoi le logiciel est important dans ce système-là? Parce que pour organiser la relecture par les pairs, entre autres choses, il y a aussi des processus de production qui vont utiliser le logiciel, évidemment, mais moi, ce que je vois en tant que chercheur, c'est surtout cette partie-là. On a besoin d'une plateforme qui permet au comité de rédaction de suivre ce qui se passe, aux gens d'interagir, aux auteurs de déposer, aux relecteurs de donner un rapport, etc. Et donc là, ce qu'utilise Ubiquiti Press, c'est OJS, Open Journal System, qui est développé par PKP, qui est une fondation qui regroupe des universités.
Public Knowledge Project.
Voilà. Et Ubiquiti Press, donc eux, c'est une boîte privée qui fait de l'édition scientifique. Ils ont utilisé OJS, mais ils l'ont modifié. Ils ont trouvé qu'il y avait des améliorations à faire. Donc ils l'ont amélioré dans une direction qui était pertinente pour ce qu'ils voulaient en faire. Et donc ils publient un certain nombre de journaux en utilisant la version modifiée d'OJS qui est utilisée par un tas de journaux. Alors pourquoi le logiciel c'est important, mais pourquoi est-ce que c'est important qu'il soit libre? Je ne vais pas revenir sur l'efficacité, je ne pense pas que vous ayez besoin d'être convaincu, sur le fait que la modularité permet à toute personne de rajouter des fonctionnalités et d'interagir plus facilement avec le logiciel, mais un truc qui est très important c'est la liberté. On veut aussi être libre, on ne veut pas se laisser à nouveau enfermer dans un nouveau système. C'est vrai qu'une maison d'édition qui nous propose un bon service avec un logiciel libre, ça veut aussi dire que le jour où il propose un moins bon service, on peut partir et utiliser le même logiciel. On n'a pas besoin de changer notre méthode de travail, on peut partir avec le logiciel. C'est un confort qui est important pour des universitaires qui n'aiment pas du tout changer d'outil. Voilà, donc comme j'ai déjà débordé, je vais juste signaler qu'on a le projet en cours, ça consiste à étendre ça aux mathématiques, et je vais m'interrompre ici. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors, les bibliothèques payent.
Il y a quand même des budgets dans les bibliothèques qui sont des préoccupations de la plupart des bibliothèques, qui est effectivement, vous l'avez noté, les accès par les éditeurs sont astronomiques.
Les bibliothèques payent, mais pas pour l'accès.
Et les budgets diminuent.
Les bibliothèques ne payent pas pour l'accès. Les bibliothèques payent pour participer au système. Ça leur donne un droit de regard politique sur les revues qui sont dans le système. L'idée, c'est que les bibliothèques, elles, ce qu'elles veulent faire, c'est faire du traitement de l'information. Elles veulent aider les chercheurs à trouver l'information qui les intéresse. C'est ça, leur métier, en vrai. Et donc, elles le font à travers cet organisme, à travers OLH. En participant au financement, ça leur donne un droit de regard pour s'assurer de la qualité des revues qui sont dans ce système-là. Donc, elles financent, mais elles obtiennent un droit de regard. Alors là, par exemple, OLH, ils ont 200 bibliothèques de grandes universités qui financent...
Bibliothèques universitaires,
oui, ici.
Je peux faire une précision au niveau des définitions. Oui. Open access, ça veut dire libre, gratuit pour les lecteurs. Alors que le modèle précédent, celui qui vient de l'imprimerie, c'est par abonnement. Donc le système d'abonnement payé par les bibliothèques, c'est fini.
C'est pas fini encore.
Avec l'open access.
Oui.
Simplement, maintenant, si c'est aux auteurs de payer, ce que les publishers sont en train de mettre en place comme ce qu'ils appellent le Gold Open Access. Ça, c'est dramatique, parce que ça veut dire que nous, les chercheurs, qui nous coltinons déjà tout le boulot de faire la recherche, d'écrire les articles, de faire l'évaluation des articles en tant qu'éditeur, c'est-à-dire membre du comité éditorial. En plus, il va falloir qu'on paye. Et on paye sur quoi? Devinez, on paye sur de l'argent public. C'est-à-dire, les quatre fonctions que je viens de vous donner sont payées par le contribuable. Et ensuite, je finis, l'argent qu'on doit payer au publisher pour simplement avoir le droit de mettre l'article en ligne de façon effectivement libre et gratuite pour le lecteur, moi j'appelle ça les investissements sont publics, les bénéfices sont privés. Donc si vous êtes d'accord en tant que contribuable avec ce modèle, keep going, sinon il faut changer. Non, mais je donne la définition de l'open access, c'est que en lecture.
Simplement, pour le denier public, pour être très clair, vous faites juste un tour de passe-passe.
Je peux répondre.
Parce que les bibliothèques universitaires dépendent bien.
Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça.
On répond.
C'est une question tout à fait légitime. D'abord, je n'ai pas dit que le but était de payer moins d'argent. C'est un effet secondaire du système, mais c'est même pas le but premier. Le but premier, c'est que personne ne perde autant de temps qu'on en perd à l'heure actuelle. C'est d'être efficace. Ça, c'est la première chose. Et que les publications soient ouvertes. Que les chercheurs, les entrepreneurs, les citoyens, les associations aient accès à la recherche scientifique directement sans payer. Ça, c'est une différence qui est vraiment la différence fondamentale. Maintenant, quand on regarde en pratique, combien fait payer Ubiquiti Press pour traiter un article, gérer un article du début à la fin, une fois qu'il est publié? À peu près 400 €. Combien touche le milieu de la publication scientifique avec les abonnements, si on prend le revenu totaux en abonnement et qu'on divise par le nombre d'articles qu'ils publient, 4 000 €. D'accord ? Donc on a un rapport 10 entre les sous qui vont dans le système et ce qui est vraiment ce qui correspond au prix de revient, au coût réel de l'action de l'éditeur. Cette différence, elle est expliquée parce que le prix n'est pas fixé par leur coût, il est minoré par leur coût, mais il est fixé parce que les gens sont prêts à payer. Et comme on a désespérément besoin de l'accès, on est prêt à payer beaucoup.
Et comme ils ont la
c'est ça aussi qu'on veut casser.
Le fait qu'ils aient la propriété fait qu'ils définissent le prix qu'ils veulent. Voilà. Et je continue. Dans le modèle Gold Open Access, les prix de ce qu'on appelle les Article Processing Charge vont de 2000 à 5000 euros. Donc ça veut dire que soit vous payez 700 en tant que contribuable, soit vous payez 5000. On ne parle pas de la même chose.
Donc si je comprends bien, il n'y a plus de cession de droits de propriété intellectuelle.
Tout à fait.
C'est bien clair.
Ça, c'est commun à l'essentiel des publications en open access. D'accord. Mais ça existe déjà dans le modèle où l'auteur trouve le financement, c'est déjà ce qui se passe. Oui. Mais
si je me permets pour Teresa, c'est effectivement ce que l'on cherche. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Et c'est loin d'être suffisant. Et j'insiste sur ce que disait Benoît qui est essentiel, c'est qu'il faut que la possession des journaux ne soit pas laissée aux publishers. Sinon, le système, il est bloqué. Parce que ce qu'il a mentionné aussi dans son exposé, il a parlé de l'évaluation, le fait que les chercheurs sont évalués. Et devinez comment les chercheurs sont évalués? Ils sont évalués par leur taux de citation aux articles, qui sont calculés par des plateformes propriétaires qui appartiennent aux publishers. Elsevier à la plateforme Scopus, qui fait justement toute la bibliométrie. Et au-dessus de ça, ils ont d'autres plateformes qu'ils appellent, Elsevier une plateforme qui s'appelle SciVal, qu'ils vendent à nos propres managers, présidents d'université, etc., pour évaluer les carrières des chercheurs. Donc imaginez, tout ça, c'est privé, et ça fait l'évaluation des carrières des chercheurs. Donc là, je dis danger. Si vous aimez la recherche, surtout la recherche publique, là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, juste c'est qu'il ne faut pas penser qu'on a fini avec le fait qu'on ne cède pas les droits d'auteur.
Non.
C'est nécessaire, c'est la première étape essentielle.
C'est une des choses qu'on cherche, effectivement.
Mais le problème n'est pas réglé.
Aujourd'hui, quand on publie,
très important de commencer par ne plus céder les droits.
Ça, c'est clair.
Moi, aujourd'hui, j'ai des plateformes numériques, des publications numériques. Et j'ai des auteurs dans des grandes écoles de commerce qui me disent, bon, on me demande d'adhérer à tel type d'open source avec... Vous voyez les petits schémas qui sont, on peut changer, modifier, ouais. etc. Ouais. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est un modèle aussi qui se développe énormément.
Ouais. Alors, on va peut-être continuer dans les exposés et après on aura un débat plus large. Mais disons, l'idée des questions par rapport aux exposés, c'est surtout de clarification des points présentés. Et on laisse le débat sur comment on va faire pour essayer de faire la transition la meilleure façon possible. Donc maintenant, j'ai le plaisir de présenter Pierre Mounier, qui va vous montrer une solution qu'ils ont développée depuis très longtemps. Il va probablement vous dire que c'est dès les années, fin des années 90.
1999.
99, exactement, qu'ils ont mis au point pour une communauté assez spécifique, qui sont les sciences humaines et sociales, un modèle open, qui s'appelle Open Edition, que je pense tout à fait remarquable, et surtout, ils ont vraiment une longue expérience. L'idée de cette table ronde, c'est de vous présenter des expériences qui existent avec des résultats. Merci Pierre.
Merci Marie. Alors je vais vous présenter en quelques minutes Open Edition, qui est une infrastructure nationale de publication en accès ouvert pour les publications de sciences humaines et sociales, et qui est soutenue, en fait, la structure administrative qui est derrière la marque Open Edition. Il s'appelle le Centre pour l'édition électronique ouverte. C'est important d'avoir ce nom parce que ça dit véritablement le cœur de notre métier. C'est une structure publique qui est soutenue par plusieurs institutions de recherche et d'enseignement supérieur françaises, comme le CNRS, l'École des études en sciences sociales, l'Université d'Aix-Marseille, l'Université d'Avignon, et par ailleurs le ministère de la Recherche par des financements spécifiques. Alors, nous sommes convaincus que pour le développement de l'open access ou de l'accès ouvert aux publications scientifiques, il n'y a pas un seul modèle, en particulier parce que les pratiques de communication et de publication sont très différentes selon les disciplines et les communautés scientifiques. Il n'y a pas qu'un seul modèle. Donc on est toujours un peu gêné par les débats un peu généraux sur l'open access qui ne prennent pas en compte ces différences qui peuvent être très très importantes dans les communautés. Si je prends l'exemple des logiciels open source, on ne peut pas parler de la même manière des logiciels de gestion, avec des logiciels de publication, avec des logiciels industriels, avec des logiciels pour le grand public. Bien sûr, tout ça, c'est du logiciel open source, donc il y a des niveaux de discussion qui sont communs, mais il y a des très importantes différences. Et enfin, pour nous, c'est la même chose. Donc, nous travaillons avec les publications et les communautés scientifiques qui travaillent en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire des disciplines comme la philosophie, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la géographie. Vous voyez un peu l'ensemble de ces disciplines, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que dans un monde qui est plutôt dominé par, on va dire, un monde contemporain qui est plutôt dominé par les sciences et la technologie, nous pensons qu'il est important de promouvoir l'accès, de promouvoir la diffusion, la visibilité et l'usage sur ces publications qui intéressent tout un chacun, pas seulement les chercheurs, mais évidemment tous les citoyens, puisqu'on va traiter de problèmes de santé, on va traiter de problèmes d'environnement, on va traiter de problèmes de violence urbaine, on va traiter de problèmes d'éthique, d'histoire, de connaissances de différents pays, des sociétés, et ainsi de suite. Donc c'est très important qu'il y ait des initiatives spécifiques pour maximiser l'usage, l'accès et la visibilité de ces publications qui sont issues de la recherche dans ces disciplines. Alors, le pari que l'on a fait, nous, depuis 1999, c'est ce que tu disais, Marie, c'est deux choses. Premièrement, nous pensons que le meilleur moyen de maximiser l'usage et la visibilité de ces publications, c'est de les rendre disponibles en accès ouvert pour qu'il n'y ait pas de barrières financières ou techniques, mais en particulier financières, pour accéder à ces publications. Donc un livre de sciences humaines, hein, c'est quelque chose, un livre imprimé de sciences humaines, ça coûte entre 30 et 45 euros. Ça coûte assez cher, hein. Il y en a à 20 euros, mais en tout cas c'est assez cher, donc c'est pas accessible pour tout le monde. Nous travaillons pour que ces livres soient en accès ouvert pour tous ceux qui veulent les lire sur Internet, et plus particulièrement sur le web. Pourquoi le web ? Alors ça, c'est un pari que nous avons fait, contrairement à d'autres plateformes ou à d'autres initiatives qui se sont contentées, entre guillemets, de prendre des PDF et de les mettre sur des serveurs web. Sur des serveurs internet, pardon. Nous avons fait le pari de convertir ces contenus, alors c'est là qu'on parle de la relation à l'ère de l'imprimé, de convertir ces contenus dans des formats qui sont accessibles dans un navigateur web, en particulier format HTML que vous connaissez, mais aussi d'autres formats, par exemple, qui rendent plus facile la lecture de ces contenus qui sont complexes et longs à lire, sur tout un tas de supports de lecture, comme un smartphone, comme une tablette, comme une liseuse électronique. Pour ça, on utilise un format qui s'appelle format EPUB, qui est aussi un format ouvert par ailleurs. Donc, vous voyez, c'est pas seulement, la question, c'est pas seulement de rendre gratuitement disponibles des contenus, mais il s'agit aussi de reformater d'une certaine manière, de transformer ces contenus en les faisant quitter l'ère de l'imprimé pour les rendre disponibles et utilisables par tout un chacun sur les supports que nous utilisons tous aujourd'hui. Toutes les générations, toutes les sphères de la population, nous utilisons tous des supports de lecture numérique qui passent beaucoup par le web. Alors, une des particularités des sciences humaines et sociales, et en particulier des humanités par rapport aux disciplines dont on vient de parler, c'est que les chercheurs n'écrivent et ne publient pas seulement des articles dans des journaux, c'est-à-dire en fait dans des revues académiques, mais une grosse partie de la production passe par des livres, qui est un format complètement différent. Vous voyez, le type d'objet est complètement différent, puisqu'il ne s'agit plus d'articles de 20 pages, de 15-20 pages, mais de monographes, ce qu'on appelle des monographies, qui font entre 200 et 300 pages. Alors, pour ça, on a développé plusieurs plateformes. Donc, la plateforme la plus ancienne s'appelle Revue.org, créée en 1999. Elle publie en libre accès, en accès ouvert environ 450 revues de toutes les disciplines de sciences humaines et sociales aujourd'hui, pas seulement françaises, mais venant de plusieurs pays, pas seulement en français, mais aussi en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, en allemand, et dans d'autres langues, parce que c'est aussi une spécificité des sciences humaines et sociales. La langue des sciences humaines et sociales, contrairement à d'autres disciplines, n'est pas l'anglais. La langue des sciences humaines et sociales, c'est le multilinguisme. C'est-à-dire que les chercheurs publient dans leur langue, et ils sont très souvent capables, enfin, quasiment tout le temps capables, de lire deux ou trois autres langues pour se rendre compte de s'informer des recherches qui sont faites dans d'autres pays. On a une autre plateforme, ce qui est la dernière qu'on a ouverte, qui s'appelle Open Edition Books, où nous travaillons avec environ 70 publishers, c'est-à-dire ce que nous appelons en français éditeurs de sciences humaines et sociales. Et là encore, on a une spécificité par rapport à la situation dont vous avez entendu parler juste avant. C'est que dans nos disciplines, les publishers ne sont pas les gros monstres capitalistes dont vous avez entendu parler, qui veulent faire du profit, mais ce sont des petites structures avec un ou deux ou trois salariés en général, qui sont très très nombreux et très éparpillés dans les différents pays, et dont l'objectif n'est certainement pas de faire du profit. Et ils n'en font pas. S'ils arrivent à survivre, ils sont déjà contents. Donc tout le monde sait que si vous voulez faire de l'argent, c'est certainement pas dans les sciences humaines et sociales qu'il faut se diriger. Vous poursuivez d'autres objectifs. Donc notre idée, c'est pas de les supprimer, c'est pas de les court-circuiter, c'est pas de faire sans eux, mais c'est de faire avec eux et de les aider justement à gérer cette transition vers le numérique et vers l'open access, qui est absolument nécessaire pour les raisons que j'ai indiquées. Bon, on a deux autres plateformes qui sont moins importantes ici, qui sont Calenda, qui est un agenda sur lequel les organisateurs d'événements scientifiques en SHS, en sciences humaines et sociales, peuvent annoncer leurs événements. Et puis Hypothèse, qui vous intéressera peut-être, qui est une autre manière de rendre un accès, de promouvoir ou de développer un accès ouvert aux résultats de la recherche. C'est une plateforme de blog, mais de blog académique. C'est-à-dire que ce sont des équipes de recherche, des bibliothécaires, des éditeurs, bref, la communauté de la recherche qui a des blogs sur lequel ils rendent compte des recherches en cours de manière très instantanée, de manière très fluide et peut-être plus lisible, par exemple, pour les jeunes générations, mais aussi pour l'ensemble de la population. Voilà, et ça marche très fort. D'ailleurs, on a plus de 1500 blogs de sciences humaines et sociales sur cette plateforme. 11 000 utilisateurs. Alors, tout ça nous permet de concentrer de la visibilité sur l'ensemble de ces publications. Et donc d'avoir un impact certain grâce à l'accès ouvert en termes de visibilité et d'usage sur ces publications et sur ces recherches. Donc là, on se dirige, donc en 2015, on a eu environ 64 millions de visites sur l'ensemble des plateformes où nous publions nos contenus. Alors, deuxième point, pour faire tout ça, on aurait pu, et là c'est un point qui va vous intéresser parce que là on entre dans le software, on aurait pu utiliser des logiciels de publication existants, vous savez, les CMS, il y en a des foultitudes, vous avez WordPress, vous avez Typo3, vous en avez des tonnes, vous avez Drupal, etc. Le problème, c'est que ces logiciels, ces CMS, qui sont des logiciels de publication, ne sont pas adaptés à la particularité des contenus et des workflows de production pour les publications de sciences humaines et sociales. Un texte de sciences humaines et sociales, c'est un contenu très long, très structuré, avec des parties, des sous-parties, sous-sous-parties, et ainsi de suite, des notes de bas de page, parfois deux systèmes de notes,
des paragraphes de citation, des figures insérées, des tableaux à gérer, des sections bibliographiques, des index multiples. Donc évidemment, on peut toujours bidouiller autour de Drupal pour arriver au même résultat. Mais nous, le choix que nous avons fait a consisté à développer from scratch un logiciel que nous diffusons en GPL, donc c'est un logiciel libre, qui s'appelle Lodel, pour logiciel d'édition électronique, qui est spécifiquement adapté à la gestion de ces particularités. Alors, une des caractéristiques de Lodel par rapport au CMS courant, c'est que Lodel va prendre en entrée non pas un formulaire web avec des champs à remplir et à structurer, mais va prendre en entrée des formats avec lesquels les auteurs et les publishers travaillent pour préparer leur contenu, pour rééditer leur contenu. Et ces formats, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est en fait OpenOffice ou Microsoft Word ou InDesign, qui est un logiciel de PO. Donc en fait, ce qui se passe et qui est très différent des autres CMS, c'est que les secrétaires de rédaction de revue ou les éditeurs chez les publishers vont charger dans Lodel un fichier structuré qui est le fichier avec lequel ils sont habitués à travailler, donc ils savent déjà le faire en fait. On les forme un peu pour qu'ils savent le faire, qu'ils sachent le faire pour Lodel, pour structurer l'information au moyen de style, pour que ce soit compréhensible par Lodel. Et Lodel, en fait, via un logiciel tiers qui s'appelle OTX, qui est d'ailleurs de l'OpenOffice en mode serveur, si vous voyez ce que je veux dire, va transformer en fait le fichier source en XML. Va stocker le XML dans la base de données. Et ensuite, Lodel va générer les formats de sortie automatiquement, HTML, PDF, EPUB. Donc voilà un logiciel qui est spécifiquement adapté non seulement au type de contenu que nous devons gérer pour la publication, mais aussi au workflow de production, c'est-à-dire permet aux communautés existantes, aux gens qui travaillent déjà et depuis l'ère de l'imprimé dans ce secteur, à gérer leur transition, parce qu'en fait, ça ne change pas grand-chose dans leurs habitudes. On gère la transition en prenant leur format d'entrée. Plutôt que leur dire, vous jetez tous vos logiciels que vous savez déjà utiliser et on va vous faire un autre logiciel que vous allez devoir apprendre à utiliser. Alors, dernier point maintenant, le modèle économique. On a parlé un peu de différents modèles économiques possibles. Nous avons misé sur un modèle économique que nous pensons adapté aux communautés scientifiques avec lesquelles nous travaillons, qui s'appelle Open Edition Freemium. Alors le Freemium, j'imagine que vous en avez au moins entendu parler, j'imagine qu'il y a même des spécialistes du Freemium parce que c'est un modèle économique qui est très utilisé par le logiciel libre, qui consiste évidemment à proposer certains services ou certains produits gratuitement. Et à l'intérieur de ce modèle, donc pour rassembler un grand nombre d'utilisateurs et maximiser l'usage, et à ces utilisateurs, on va pouvoir proposer des modèles premium pour des services supplémentaires ou des produits supplémentaires qui vont financer l'ensemble ou contribuer à financer l'ensemble. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous rassure, il n'y a pas les consonnes en libre accès et les voyelles en accès premium. Ça ne marche pas comme ça, parce que nous, c'est de l'accès ouvert, donc. De toute façon, les utilisateurs ont accès gratuitement au contenu intégral des publications. Mais ils ont accès en HTML, c'est-à-dire sur le format web, qui est le plus accessible, le plus standard, le plus accessible aussi pour ceux qui ont un très mauvais ordinateur ou un très vieil ordinateur et une très faible bande passante. Donc tout le monde y a accès au format web qui est le plus accessible de toute façon, et aussi le plus standard. Et puis si vous voulez du confort, alors vous avez des services premium. Si vous voulez télécharger un fichier PDF, si vous voulez télécharger un fichier EPUB, alors vous allez devoir payer. Et en fait, celui qui va payer, puisqu'on est dans la sphère académique, ça va pas être le lecteur, mais ça va être la bibliothèque qui va acheter ces services premium pour le compte de leurs utilisateurs, ce qui va générer des revenus que nous allons reverser aux éditeurs de livres et de revues, en grande partie. Ce qui va permettre en fait à ces éditeurs de livres et de revues d'être encouragés à continuer à publier en accès ouvert parce qu'ils ont un modèle économique pour le faire. Alors ça c'est la base, juste pour vous dire, en fait, on propose aux bibliothèques universitaires un ensemble de 8 services complémentaires qui sont des services premium, qui sont adaptés à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le cœur de métier du bibliothécaire qui est d'aider le lecteur à chercher l'information, à trouver l'information, à la qualifier aussi, hein, à s'y repérer. Et donc, on a développé ces services premium pour lesquels les bibliothèques payent et qui génèrent des revenus permettant d'alimenter le système économique pour ceux qui publient des contenus en accès ouvert, puisque les contenus sont de toute façon en accès ouvert au format HTML. Alors, ça, c'est une possibilité. Juste pour qu'on... C'est ma conclusion. Pour développer... Si on parle d'un point de vue économique, nous pensons que pour développer l'accès ouvert aux publications scientifiques, en fait, il n'y a pas qu'un seul modèle de financement en particulier, mais en fait, la clé, c'est la diversification des sources de revenus. Et donc, nous pensons en particulier pour les publishers ou les sociétés savantes ou les revues avec lesquelles nous travaillons, qu'en fait, le seul moyen pour elles de développer un modèle économique qui soit pérenne, qui soit soutenable, comme on dit aujourd'hui, ce n'est pas de compter sur une source de revenus, mais sur une multiplicité de sources de revenus. Et donc, cette multiplicité, ça va être, pourquoi pas, de la souscription, du soutien de la part des bibliothèques, c'est le modèle OLH, mais aussi du soutien direct de la part d'universités ou d'institutions de recherche, ça c'est le modèle de beaucoup de revues qui sont, il ne faut pas l'oublier, financées par les universités directement, soutenues par des presses universitaires qui sont aussi des structures publiques qui soutiennent la publication, avec pourquoi pas un modèle freemium qui va apporter des revenus complémentaires, et pourquoi pas, puisqu'on l'a dit, aussi avoir de l'imprimé. Pourquoi ? Parce que, ok, pour quitter la sphère de l'imprimé et se retrouver dans le digital, mais dans l'univers digital, l'imprimé n'est pas complètement supprimé, mais peut être considéré comme un service annexe, un service supplémentaire pour lequel on peut faire aussi payer le lecteur. C'est un confort aussi, l'imprimé. Et donc, du coup, continuer à faire de l'imprimé, par exemple en print on demand, en impression à la demande, qui va éventuellement générer des revenus. Voilà, en gros, c'était ça l'idée. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a une question de clarification ? Sinon, le reste, ce sera pour le débat. Merci, Pierre. Alors, maintenant, nous passons à Odile. Alors, Odile est à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, et elle a l'expérience d'avoir développé une grosse base de données qu'elle va nous expliquer. Et elle est aussi... moi, je connais Odile par un réseau qui est très important, qui s'appelle Research Data Alliance, qui est un réseau international pour essayer justement de rendre les différentes bases de données ouvertes interopérables au niveau mondial. Parce que la recherche s'est mondialisée et il faut qu'on arrive à échanger de la façon la plus flexible, smooth, open possible.
Merci Marie. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est aussi le point de vue d'une institution, un organisme de recherche. L'INRA doit être le deuxième institut dans la recherche agronomique au monde. Et avec les changements qui vous ont été exposés précédemment par Pierre et par Benoît, vous voyez bien qu'un chercheur seul face à ces changements, un chercheur ne peut pas être seul. Donc il est aussi important que les institutions, elles offrent un cadre pour que tous ces open access, open data, open science puissent exister. Et donc c'est un peu l'histoire que je vais essayer de vous raconter assez rapidement. Et avant d'arriver au projet, je vais vous planter le cadre. L'INRA vient de pondre un nouveau document d'orientation et dedans, il y a une orientation de politique générale qui est clairement affichée, qui s'appelle Open Science. Donc pour ouvrir la science grâce au numérique, on ne fait pas ça dans une approche purement philanthropique. Tout simplement, les sujets de recherche sur lesquels on travaille... le réchauffement climatique, nourrir la planète, les personnes, sauver la planète, bref, ben ça suppose d'accéder à des données qui sont n'importe où dans le monde. Si vous voulez des données météo et avoir accès à la connaissance scientifique qui fait qu'on va être capable d'identifier une plante qui est résistante à la sécheresse et capable de nourrir des populations... il faut qu'on ait accès à ces informations. Donc l'ouverture, pour nous, ce n'est pas uniquement une question de philanthropie, c'est vraiment essentiel à nos recherches. Voilà. Et donc dans ce nouveau document, nous avons décliné cinq axes de travail. Le besoin d'infrastructures de recherche connectées, notamment pour échanger les données. On doit s'organiser justement pour mieux partager les données et permettre qu'elles soient réutilisées, donc utiliser des formats ouverts, etc., etc. Ça, c'est un volet plus scientifique, c'est l'usage du numérique pour prédire ce que deviennent les organismes biologiques. Un axe sur les nouveaux modes de diffusion de la connaissance qui rejoint complètement les deux exposés précédents et qui en fait un axe de travail fort pour moi, et le métier et l'environnement du chercheur qui change face avec le numérique. Je ne vais pas développer ce point. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, je dirais, dans le cadre politique que l'on propose à nos chercheurs, on vient aussi de publier une charte pour le libre accès aux publications et aux données, en disant clairement que les données doivent être ouvertes par défaut sous réserve de droit. Alors le sous réserve de droit, c'est parce qu'on peut faire de la recherche en partenariat avec le privé, où il peut y avoir des problématiques d'anonymisation de données quand on a des données sur les personnes, donc il ne faut pas diffuser n'importe comment. Pour les publics, ne pas céder les droits à l'éditeur, sujet qui vient d'être mentionné. Le fait que pour l'évaluation, donc nos comités d'évaluation s'appuieront sur le contenu de notre base de publication, enfin notre archive ouverte, dont je vais dire quelques mots après. Et pour les données, alors elles doivent respecter des principes techniques. Alors les FAIR principaux, mais le FAIR là, c'est pas comme le FAIR de tout à l'heure qui était, le FAIR open access qui était un open access équitable en gros. Là, les FAIR principaux correspondent, le FAIR correspond à un sigle. Donc les données doivent être trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Voilà. Donc ça suppose effectivement le respect de standards, de normes pour la réutilisation. Voilà donc pour ce cadre, un document de politique générale et une charte spécifique pour le libre accès aux publications et aux données. Il y a deux ans, ça date de 2014, on avait fait un travail interne pour comprendre où en étaient les chercheurs avec ces questions d'ouverture, enfin d'open science. Parce qu'on a beaucoup focalisé cet atelier sur open access, les publications, open data, les données. Mais dans le volet open science, il y a différentes choses. Il y a donc l'open access, l'open data, il y a l'open source, bien sûr, il y a les sciences citoyennes, les sciences participatives, le crowdfunding et tout le mouvement autour des MOOC, du e-learning. On a essayé de voir où en étaient les chercheurs par rapport à la connaissance de ça et ce qu'ils pensaient de la faisabilité de la chose. Donc, en gros, l'open access, ils connaissent bien. L'open source, ils connaissent bien. Et ça, pour eux, ça a une mise en œuvre connue, facile, relativement, c'est fort. L'open data, ils connaissent, mais pour eux, c'est pas faisable. Les MOOC, ils connaissent un peu et c'est à peu près faisable. Et bon, les sciences participatives, l'implication des citoyens dans la science, c'est pas encore trop une préoccupation pour eux. Et l'autre dessin montre que le chercheur, il a parfois des pulsions contradictoires. Pour les données, ils veulent bien accéder aux autres, mais ils veulent pas forcément partager. Pour l'open access, tout ce qui vous a été expliqué avant, en gros, idéologiquement, ils sont d'accord. Mais quand on leur dit qu'il y a tel journal en open access qu'il faut soutenir et publier dedans et que ce journal n'a pas encore de facteur d'impact, donc un indicateur de l'audience qui est très important dans l'évaluation actuelle des chercheurs, ils ne veulent plus publier dedans parce qu'ils ont peur de se faire mal évaluer. Donc le chercheur, il est soumis à plusieurs injonctions contradictoires, et même au sein de nos institutions. Donc moi, je suis du côté information scientifique. Mon discours est ouverture des connaissances. La direction en charge du partenariat, enfin de l'innovation et de la valorisation économique, son discours, c'est brevet. Donc on est aussi en face de ces un peu des injonctions paradoxales, contradictoires. Et donc, notamment autour des questions d'open data, et je vais venir là-dessus après, c'est quel nouveau modèle d'innovation on peut mettre en place, quelle chaîne de la valeur on va pouvoir proposer pour innover. Voilà. Alors, donc là, j'arrive aux outils. Donc, en fait, aujourd'hui, on a différents outils pour différents types de produits de la recherche. Donc, les produits de la recherche, publications, données, codes, pour tout ça, pour l'instant, est séparé. Ça, c'est un projet ancien dont notre base de publication s'appelle ProDINRA. Nous avons et dû suivre la politique de la direction des systèmes d'information qui, en 2012, voulait que l'INRA acquiert un logiciel de gestion de documents et donc que notre application soit développée sur la base de ce logiciel.
Qui n'était pas open.
Ah, pas du tout open. Pas du tout, pas du tout open. Eh bien, voilà, aujourd'hui, nous sommes dans un cul-de-sac technologique. L'application ne peut plus évoluer et donc nous devons en changer. Et donc, nous avions néanmoins des formats ouverts et des standards d'interopérabilité, l'OAIPMH, toutes les technos de communication des métadonnées. Via aussi des API, etc., etc. Mais le socle technologique est complètement privé. Donc aujourd'hui, on est devant une solution qui ne peut plus évoluer. Et donc on a deux scénarios d'évolution. Soit on bascule notre archive sur la plateforme nationale HAL, ou on va vers de l'open source. Donc là, j'ai cité différents types de logiciels d'Espace ou Icelandora. Mais là, il est clair que ce choix de système privé était une vraie erreur. Du coup, pour les données, là, on est en train de créer un portail des données sur la base d'un open source qui s'appelle Dataverse, qui est développé par l'université d'Harvard et qui permet, en gros, de gérer toute la chaîne de la publication des données scientifiques. En contrôlant les droits d'accès sur les fichiers et en allant jusqu'à la publication d'articles sur les données avec également des indicateurs de citation sur les articles. Alors pour mettre en place ce système, en fait, donc, on fait quelques adaptations mais qui ne modifient pas le cœur du code de Dataverse. C'est juste des modules accessoires qui sont développés, qui vont être reversés dans la communauté Dataverse. Et notre enjeu, c'est de contribuer à la roadmap de Dataverse pour faire en sorte que nos besoins soient inclus dans la roadmap du projet. Donc ça, c'est une maquette, tout simement, qui je ne vais pas commenter plus en détail, mais en gros, toutes les fonctionnalités existent de base. Il y a d'autres projets, là, qui est suivi par le département de mathématiques et informatique appliquée, un projet de forge pour partager le code. Ils sont en train d'étudier différents scénarios et nous travaillons aussi sur un portail des vocabulaires qui sont nécessaires pour l'interopérabilité des données, que ce soit les publications ou les données. Nous travaillons donc sur une plateforme qui s'appelle Bioportal, qui est une plateforme qui à l'origine été développée par les Américains, donc le NCBI, c'est une une communauté de recherche dans les sciences du vivant, pour faire simple. Et donc, tous nos vocabulaires sont accessibles dans des formats liés au web sémantique sur cette plateforme qui permet de rechercher, d'annoter des documents, etc., etc. Voilà. Faire de l'open data dans la recherche, c'est pas forcément très simple. Il y a des peurs. Les peurs, c'est notamment qui va cueillir les fruits. Avec la crainte d'une science à deux vitesses entre les producteurs de données, en gros l'Europe, et puis les exploiteurs de l'information, les États-Unis ou l'Asie. Et donc, quand on parle avec les chercheurs et même avec le management scientifique de l'Institut, c'est une vraie crainte. Là, j'aborde plutôt les questions d'innovation. Qui se pose aussi bien sur les publications que les données, mais là, les exemples que j'ai sur les archives ouvertes, c'est que vous pouvez avoir des services qui vont collecter les contenus de ces archives ouvertes. Là, c'est un portail qui s'appelle Scanner, qui a été développé par une équipe du ministère de la Recherche sur la base d'un logiciel, alors je ne pense pas qu'il soit libre, lui. Donc, il va collecter les données dans HAL et dans notre base des publications ProDINRA, mais également dans Wikipédia et dans d'autres sources, et qui permet de savoir qui fait sur quoi, qui fait quoi dans quel domaine de recherche en France. Mais vous avez aussi sur ces mêmes sources des services payants. Là, c'est l'exemple d'une société Expert Nova qui vend ses services au secteur privé pour trouver les meilleurs experts scientifiques, donc en associant des données sur les publications, mais également les brevets. Donc on voit que sur des sources gratuites, il y a différents types de services qui peuvent se développer. Et ça, les chercheurs, avec l'open access, ils n'en ont pas forcément conscience. Ils pensent qu'on ne peut pas faire de business sur des choses qui sont gratuites. Mais il faut penser, il faut avoir cette réflexion-là. Donc pour conclure, à l'INRA, donc on a essayé de mettre en place un cadre politique pour cette science ouverte. Open access aux publications, open data. L'idéal serait d'aller vers une infrastructure où tout ça communique mieux, et en tout cas le fait que ce soit basé sur des outils open source est maintenant incontournable. L'accompagnement des scientifiques est hyper important. On a mis en place un site web data partage sur le volet données où les scientifiques peuvent trouver des outils pour mieux gérer et partager les données. Imaginer de nouvelles formes d'innovation et de création de la valeur, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Et donc, à l'avenir, là, donc je dois coordonner un projet européen dont le but est de bâtir une feuille de route pour faire de l'open science en agriculture. Voilà, c'est un projet qui va commencer en janvier prochain. Et un autre projet qui va permettre de prototyper des services innovants à la fois sur les données et publications qui commence aussi en janvier 2017. Voilà. Merci. Vous voulez dire l'évaluation des chercheurs ou l'évaluation globale de la politique ?
L'évaluation des chercheurs, des personnes.
Alors, je ne vais pas vous présenter le petit schéma de... Les chercheurs, ils sont encore dans une période de transition dans leur tête. Là, donc, on a un article spécifique qui dit que l'évaluation sera basée sur les articles accessibles dans l'archive ouverte, que le chercheur n'est pas obligé de mettre toute sa production, plutôt pour l'évaluation, il peut sélectionner les publications et commenter pourquoi il met ces 4 ou 5 publications-là. Ce n'est pas forcément tout qu'on lui demande, on ne lui demande pas forcément de tout mettre.
C'est sous-entendu, mais les meilleures, celles qui vont être les plus...
Ben, la notion de meilleur, en fait, on a...
C'est que lui-même considère...
En fait, la notion de meilleur, on a même été amené à l'expliciter, c'est-à-dire que maintenant, le discours, c'est de dire, même si on publie dans une revue qui n'a pas un énorme facteur d'impact, ce qui est important, c'est d'expliquer la stratégie de publication globale et pourquoi tel est, enfin, ce qui est novateur dans tel ou tel article, quoi. Donc on essaye de se détacher aussi des critères facteurs d'impact tels qu'ils...
Je voudrais faire un témoignage personnel. À chaque fois que j'ai, quand on m'a demandé mes meilleurs articles, j'ai dit ceux qui pour moi sont les plus importants, et ils avaient toujours des très très petits facteurs d'impact, alors que les articles ont des très grands facteurs d'impact qui pour moi ne sont pas mes meilleurs articles. C'est pas, y a pas un lien évident entre les deux. Et...
Oui, petite... l'évaluation continue à se faire exclusivement sur les publications.
Alors, non,
pas
alors...
sur les données.
Oui, vous avez raison. Donc, on a aussi mentionné dans la charte que le travail concernant la mise à disposition des données serait inclus comme un produit de la... Enfin, les données seraient inclus comme un produit de la recherche à part entière. Et puis, comme on développe aussi une politique assez active pour les sciences participatives, les chercheurs peuvent aussi expliciter ce qu'ils font pour développer les liens sciences-société.
Et les logiciels, ça ne rentre pas
dedans. Les logiciels aussi, oui.
Ça rentre dans le même niveau que les données.
Excusez-moi, oui, parce qu'effectivement, j'ai plutôt une entrée publique et je ne pense pas toujours au code, ce qui est une grosse erreur, parce que le lien publication, enfin, code, données, enfin, est hyper important. Et, ouais. Oui.
Et du coup...
Alors, attendez, pardon, l'HCERS, donc, qui est la structure... qui évalue qui organise l'évaluation des chercheurs, il y a vraiment un fort dialogue à instaurer avec.
D'accord.
C'est pas,
parce qu'en fait, l'évaluation de vos chercheurs, c'est fait par l'HCERS.
Non, je suis une bêtise, c'est l'évaluation des unités qui est faite par les chercheurs, mais les évaluateurs sont aussi imprégnés de ces méthodes-là, et même dans nos commissions internes. Ça peut transparaître.
Bon, on va passer peut-être au suivant.
Du coup, si jamais l'évaluation des chercheurs et des unités et des équipes et tout ça prend en compte la production de données, de logiciels, etc., il ne se pose plus le problème de qui récolte les fruits de la mise à disposition des données, puisque mettre à disposition les données, si on utilise les bonnes licences libres, on est obligé de citer l'auteur, et du coup, ça fait une publication citée et qui est prise en compte dans l'évaluation. On s'en fiche, et même c'est très bien d'avoir fait un jeu de données qui est suffisamment noble que plein de gens l'utilisent et récoltent les fruits.
La question de qui va cueillir les fruits, je l'ai évoqué parce que c'est un frein aujourd'hui.
C'est un frein du coup psychologique chez les chercheurs plus que factuel, si jamais l'évaluation est déjà ça.
Je me permets de faire une remarque juste sur ce point précis, sur le fait qu'effectivement, les chercheurs, si on leur dit qu'on va faire de l'argent avec leurs résultats, a priori, ils ont une méfiance. Mais ils ont tort, parce que le principe, quand même, c'est qu'on est payé par le contribuable. Le contribuable, c'est les citoyens et sont les entreprises. Je veux dire, quelque part, les entreprises mettent aussi de l'argent. Donc, nous, chercheurs, on est au service de tout le monde. Il faut quand même être un peu cohérent et réaliste aussi. Voilà. Merci, Odile. Donc, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Yves Lemeur, qui est au CERN. Et qui a développé une grosse base de données, qui est aussi un des leaders d'un logiciel open source, apparemment avec une communauté internationale importante. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, à Dublin, pour une conférence sur les open repositories, et j'ai vu que la communauté Invenio est très importante. Donc il va nous parler de sa base, et en particulier de Zenodo et de Invenio. Merci beaucoup.
Merci Marie, bonjour. Oui, je vais vous parler un peu de la vie en fait d'un logiciel open source dans le domaine donc, de l'open science. Donc depuis un peu même avant sa création, jusqu'à, non pas jusqu'à sa mort, parce que je ne connais pas encore la date de sa mort, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui. D'abord, c'est une en partant en 1954 à Paris, 1er juillet, donc le Centre européen de la recherche nucléaire est créé, une convention est signée par tous les pays membres de l'époque. Et dans le deuxième article déjà de cette convention, y a cette phrase qui déjà finalement annonce l'open access d'une certaine manière. L'organisation s'abstient de toutes les activités à fin militaire, très important, et les résultats de ces travaux expérimentés auto et théoriques sont publiés ou de toute autre façon rendus généralement accessibles. Donc au même titre que le fait de la neutralité militaire, l'open access était déjà dans les lignes de la création du CERN. Alors ce qui m'intéresse en particulier, c'est évidemment le tout autre façon. Je me demande ce que les fondateurs du CERN à cette époque avaient dans la tête, ouais, quand ils ont écrit de toute autre façon.
Ouais. Ils laissaient les possibles se développer, ouais.
Mais déjà, ils avaient... Mais je pense que les deux sont liés non pas par hasard, puisque... Effectivement, à l'époque de la guerre froide, les Russes étaient aussi... Enfin, l'URSS était donc aussi au CERN, ils travaillaient dans les collaborations du CERN. Mais comme il y avait ce principe qui était lié, toutes les publications étaient de toute manière publiques, ouvertes à tout le monde.
J'aimerais juste ici faire une toute petite remarque qui rejoint ce qui avait été dit précédemment. C'est que qui dit science dit ouverture. Mais, dans la science, dans la recherche... Au quotidien, on a la recherche classifiée. Et moi, je suis même dans un domaine de recherche où il y a pas mal de choses classifiées. Mais c'est aux chercheurs de décider s'ils ne veulent pas faire recherche militaire. Pourquoi ? Parce que pour être recherche classifiée, dit qu'il faut la clearance. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez vraiment montré patte blanche, que vous allez dire rien à personne. Et donc ça, de mon point de vue, ça a toujours été exclu de la recherche. J'ai toujours refusé ça. Et la recherche classifiée, pour moi, n'est pas de la recherche par le seul fait qu'elle est fermée. Voilà.
Mais comme mentionné Pierre avant, il faut prendre en considération les différents types de recherche. Et c'est certain que la recherche en physique des particules, c'est de la recherche vraiment fondamentale. Et donc, cette phrase est possible dans ce cadre-là.
Un chercheur qui refuse la clearance, quelque part, il est tranquille. Parce qu'on ne va pas lui demander de faire de la recherche militaire vraiment secrète. C'est-à-dire qu'il faut garder l'autorisation de publier systématiquement. Si on n'a pas l'autorisation de publier... On ne fait pas de la recherche normale, de mon point de vue.
Ouais, mais là, tu as une définition normative de la science, oui, et de la recherche. Une définition non normative, tu essaies de prendre en compte les différentes situations. Tu prends le cas des gens qui font de la recherche en chimie au sein de l'industrie. C'est difficile de dire que ce ne sont pas des chercheurs, et pourtant, ils ne publient pas.
D'accord. Je parlais très spécifiquement de la clearance. Ouais. Je ne parlais pas de la recherche industrielle. C'est autre chose pour moi.
Je pense aussi qu'il faut quand même voir le cadre de la discipline. Les autres façons. Alors, bien entendu, la première autre façon, qui correspondait peut-être à l'époque, mais quand je suis arrivé au CERN dans les débuts des années 90, elle existait encore, c'est la poste. Puisque les documents étaient effectivement imprimés, les pré-publications, qui étaient mentionnées juste avant, étaient publiées. Il y avait une liste de distribution qui existait dans toutes les bibliothèques de physique de particules, il y avait la physique de particules, les instituts de physique de particules. Et donc, cette liste de distribution était l'endroit où les documents circulaient, comme ça, et puis voilà, il y avait des photocopies. Il y avait donc cette distribution purement physique des opérations. Le serveur FTP, le fameux serveur archive développé à la fin des années 80, début 90, donc mettait les documents en ligne, vous avez peut-être déjà vu, mais tous les documents étaient donc en FTP, et évidemment, début des années 90, le protocole HTTP, donc développé au CERN par Tim Berners-Lee, en fait, la communication qui se faisait par FTP pour l'ensemble des documents de physique, plus les travaux de recherche qui se faisaient déjà beaucoup au CERN en hypertextuel, notamment avec des experts en SGML et d'autres technologies d'hypertexte, ont fait que la combinaison des deux ont donné naissance à ce nouveau protocole, HTTP, sur tout de suite le premier serveur de préprint, Archive, a été mis en place. Moi, un de mes premiers jobs au CERN, c'était de mettre en place le serveur de préprint pour le CERN, en particulier, c'était en 93, en particulier parce que le CERN avait créé une nouvelle série de scans, en fait, et donc ces papiers qui circulaient physiquement par la poste auparavant étaient scannés, et la diffusion a arrêté de se faire par papier à ce moment-là, puisqu'il y avait ce serveur de préprint qui diffusait la série Scan. Les développements ont suivi, le serveur de préprint est devenu un serveur de documents plus général, si bien que d'autres services ont suivi ensuite, pour la physique des particules en général, pas seulement pour le CERN, pour l'Open Data, je reviendrai sur ces différents services, et également, plus récemment encore, le Scope 3, qui est le modèle de Gold Open Access pour la physique des particules. Et derrière chacun de ces dépôts différents, dépôts institutionnels, dépôts disciplinaires, dépôts de portail pour l'open data, ou bien aussi donc portail pour l'open access gold, avec un accord entre les maisons d'édition et les instituts physiques. Derrière tous ces finalement ces techniques de diffusion open access, il y a un logiciel qui s'est développé, c'est donc ce logiciel Invenio, et qui a servi dans ces différents cadres, qui s'est adapté aux différents besoins qui sont apparus au fur et à mesure. C'est un logiciel open source, mais je voudrais bien quand même insister sur le fait que open source et open science sont deux choses complètement, finalement, non connectées, quelque part. À part si on considère que le code lui-même est une science, dans ce cas, évidemment, les vertus de l'open science s'appliquent aussi au code. Mais sinon, on a utilisé pendant très longtemps un logiciel propriétaire, de bibliothèque, de Exlibris, donc le fournisseur numéro 1, et toutes les publications étaient diffusées, étaient aussi en open access, complètement indépendamment finalement du logiciel qui était utilisé. Donc l'évolution des deux était un peu à suivre en parallèle, je dirais. Mais ce qu'on a découvert quand même, par l'expérience qu'on a eue avec le logiciel Invenio, c'est surtout ce cercle virtueux. On a parlé déjà de tous les avantages auparavant de l'open source. Il y en a un sur lequel je vais insister, c'est que aussi bien quand vous relisez finalement une publication que quand vous mettez en accès ouvert du code, vous allez le lire à deux fois. Et vous allez vous obliger à faire en sorte que ce code il soit le mieux documenté possible. Alors c'est un coût important, mais au final, vous enrichissez la communauté et vous enrichissez aussi de ce que les autres vont mettre en ligne, parce que vous avez l'obligation finalement de mettre à disposition de quelque chose le mieux de ce que vous pouvez faire. Donc là aussi, on a beaucoup parlé des principes, etc. On n'a pas tellement parlé jusqu'à présent de la difficulté de l'open source, parce que le coût, en fait, de produire un logiciel open source, de maintenir une communauté open source, il est important, il est vraiment important. C'est-à-dire que faire créer un logiciel et juste l'utiliser localement dans une communauté fermée, développer juste pour cette communauté fermée, je dirais que... Et le transformer dans un logiciel qui devient open source... ça multiplie peut-être par 3 ou 4 le coût, en réalité, parce qu'on doit être plus générique, parce qu'on doit prendre du temps pour voir les besoins de chacun, parce qu'on doit communiquer, on doit éviter les conflits entre les communautés, etc. Donc, le coût de l'open source est quand même très important, et j'insiste un peu là-dessus, mais il y a des fruits. Alors, il y a des fruits dérivés qui ont été très importants, notamment au sein de Invenio, la communauté qui s'est accrue de façon très importante, je vais le montrer juste après. Une société de services qui s'est développée comme une spin-off du CERN, Tind, créée par des jeunes Norvégiens. Et puis, bien sûr, d'autres services comme le service des nodos, qui est en fait pour récolter la long tail of data, donc vraiment la longue traîne des données de la science. Donc, une vidéo à travers le monde. Alors, il y a énormément d'institutions qui se sont développées. Cette société donc supporte maintenant un ensemble d'institutions assez nombreuses, assez prestigieuses, et donc le service Zenodo qui est une partie prenante d'un projet européen Open Air, qui vous connaissez peut-être déjà, mais qui s'occupe de dépôts communautaires et orienté donc données. Il y a quand même beaucoup de publications. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs des publications. Marie Farge.
Ah bah, il y en a plein, justement, grâce à Dissémine.
Dissémine qui pousse.
Okay. Tu vas voir, c'est très bien,
très intéressant.
C'est pour ça que vous êtes dans cet ordre-là, d'ailleurs.
Je suis patient. Du coup, c'est aussi donc une sorte de produit dérivé de Invenio, qui est finalement un service financé par la Commission européenne aujourd'hui, et qui finalement sert les communautés du monde entier pour faire des dépôts de données de petite taille, je dirais, pour l'accès libre.
Mais quelle sorte de données ?
Alors, ça peut être des fichiers... la plupart, c'est des CSV, donc hein, des fichiers des fichiers texte, tout simple. Les disciplines sont très variées. Hein, ça peut être...
Zenodo est capable de tout accepter, du code, des images, des vidéos. Il prend tout.
Alors, la plus grosse partie aujourd'hui, c'est effectivement... Ça reste quand même des publications. La deuxième plus grosse partie, c'est effectivement des datasets et énormément de code maintenant. Ça augmente énormément parce qu'il y a un accord avec GitHub que quand un projet est fermé dans GitHub, en fait, on a la possibilité de l'archiver directement dans Zenodo. Donc il y a une gateway entre GitHub et Zenodo pour finalement archiver le code qui disparaît dans GitHub. Parce qu'il y en a beaucoup qui disparaît, beaucoup de code de GitHub qui Projet fermé.
Pour la reproductibilité de la science, c'est très important de garder les données sources, le code qui a servi à les transformer et l'article qui est le résultat et l'analyse de ces données.
Voilà, donc j'arrive à ça, c'est-à-dire c'est un peu le défi justement de l'open data dont on parle beaucoup. Dans les principes aussi, c'est fantastique. Dans la réalité, il y a une technique, il y a un certain nombre de complexités. Alors, je voudrais parler de l'ouverture aussi de ces données, qui, au CERN également, se fait quand même après un embargo. Parce que, évidemment, les expériences coûtent une fortune. Le temps des expériences est très long. Donc, les détecteurs sont très complexes. Et donc, l'expérience qui a investi autant pour... la collaboration qui a autant investi pour récupérer les données veut quand même être la première à exploiter ces données. Donc, ils ne veulent pas dire... c'est ce que tu disais avant sur qui va consommer les données. Mais là... ils payent pour les données, enfin, ils travaillent pour ces données, ils les ont, ils veulent les exploiter, donc ils vont mettre un embargo de peut-être 12 mois ou plus pour être sûr de pouvoir tourner, eux, toutes les analyses sur ces données avant de dire, voilà, toutes les autres communautés sont bienvenues pour jouer avec nos données. Donc, il y a un embargo, toutes les expériences ont un embargo. Je ne connais pas une seule expérience au CERN qui n'a pas posé un embargo sur l'ouverture des données. C'est un défi aussi pour d'autres raisons. La complexité, ce que Benoît disait à l'instant, ce que Pablo disait à l'instant, c'est-à-dire qu'on a on a les données brutes, mais alors au CERN, les données brutes sont produites à une vitesse faramineuse, puisqu'il y a presque un milliard de collisions par seconde, si bien que la plupart, la plupart des données sont tout de suite jetées. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes électroniques de trigger, plusieurs niveaux de trigger, qui font qu'il y a peut-être, sur un milliard de collisions, il y a une centaine de collisions à la fin, de données de collisions qui vont être conservées par seconde. Voilà, c'est la première fois dans l'histoire de la science, d'ailleurs, que des données acquises sont immédiatement jetées. Bah, parce qu'on recherche dans des domaines, dans des niveaux d'énergie très spécifiques, et des niveaux de... voilà. Donc on sait que là, ça ne va pas nous intéresser, donc on jette. Donc on fait des erreurs, mais c'est comme ça. Si bien qu'à la fin, quand même, on récupère des données très importantes de données, bon, à peu près 30 pétabytes par an pour le LHC. Donc aujourd'hui, on a 130 pétabytes. Ce qui reste relativement faible si on compare aux données personnelles qui sont sur Google, sur Amazon, etc. Mais en science, c'est déjà pas mal. Et le prochain projet de haute luminosité du LHC, là, on atteint les exabytes. Donc il faut qu'on se prépare à cette nouvelle donnée. Donc c'est quand même complexe. Hein. Le volume, il est quand même très important. Et puis, si on conserve que les données brutes, ça sert à peu près à rien. Parce que ces données vont avec une documentation pour les comprendre, avec des logiciels qui permettent de refaire des simulations. Et puis, bien sûr, la connaissance, c'est un peu vague, mais s'il n'y a pas cette connaissance, ça va être très difficile à réutiliser, à retourner des simulations dans le futur pour pouvoir vérifier finalement ce qui a été fait, ou bien parce qu'on a d'autres idées sur des équations physiques ou sur des particules qui pourraient réutiliser ces données. Si bien que l'ouverture est complexe, et je dirais que pour l'instant, on le fait, on fait des releases régulières dans deux buts. Le premier but, c'est un but éducatif, c'est-à-dire des masterclass qui sont organisées pour que les données puissent être utilisées par des écoles, avec de l'aide, bien sûr. Et c'est donc des portions seulement de données qui sont mises à disposition dans un but d'abord éducatif. Il y a aussi donc le but scientifique, de dire d'autres scientifiques peuvent venir et récupérer des informations. Bien sûr, c'est un peu une obligation, parce que les bailleurs de fonds, maintenant, demandent que les datas soient effectivement en accès ouvert. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prévoir très tôt dans les projets, parce que ça coûte moins cher si on met en place tous les mécanismes le plus tôt possible. J'en arrive finalement au dernier point qui est dans la vie encore de ce logiciel, finalement, qui après avoir supporté les publications, je n'ai pas parlé du multimédia, le multimédia et l'open access, l'open data, considère maintenant la question de l'archivage ouvert. Parce que c'est une question qui est relativement peu abordée aujourd'hui, mais les risques... pas pour nos générations, où on a tout le temps des réplicas, etc. On fait du bit preservation de façon assez efficace. Le centre de calcul du CERN sur, je crois que c'est 1, le taux d'erreur est de 1 pour 16 pétabytes traités. Donc on a 1 byte pour 16 pétabytes traités, on a une perte. Donc c'est très très faible. Donc on a aujourd'hui, on a des calculs, on a des capacités pour les générations présentes de bien préserver les informations, mais on a des risques dans cette préservation pour les générations futures, parce que finalement, le modèle aujourd'hui le plus avancé, qui est la norme OIS, il y a une norme ISO derrière, 16363, très peu de systèmes sont compatibles avec cette norme ISO. donc c'est ce qu'on appelle les trustworthy repositories. Et pourtant, c'est absolument essentiel. Ça inclut tout un ensemble de spécificités purement techniques, mais aussi finalement beaucoup d'informations liées à l'infrastructure, à la gouvernance des systèmes, etc. Et c'est une norme qui, en fait, peut s'appliquer aussi bien pour les données, pour les e-government, donc toutes les informations de type administratif, pour l'audiovisuel, pour la publication, etc., et aussi pour les données personnelles. Mais c'est une norme qui est aujourd'hui assez peu répandue, malgré tout, dans les systèmes qui gèrent dans les dépôts institutionnels. Donc il y a un nouveau projet au CERN qui commence maintenant, c'est cette mémoire digitale du CERN, de façon à ce que, en gros, le logiciel qui est aujourd'hui Invenio, qui supporte tous ces systèmes, puisse mourir, mais que même s'il meurt, en gros, les bases de données derrière, ça n'a aucune importance qui est utilisée, mais on a chaque information est gardée dans un modèle finalement complètement ouvert et autosuffisant. C'est-à-dire qu'on a toute l'information, le contexte, etc., si bien qu'on est sûr qu'avec cette information, on est capable, dans 200 ans, de le lire et de le récupérer, quel que soit le logiciel derrière. C'est le principe de l'OIS. Après, on ne peut faire que ce qu'il y a de mieux à l'époque où on vit. Donc, pour conclure rapidement, donc, de la vie à la mort d'un logiciel, Invenio est donc le logiciel back-engine de l'open science en physique des particules, au CERN et en physique des particules, avec donc une évolution qui est très séparée entre l'open science, l'open access et l'open source, mais que, comme ça a été dit déjà auparavant, il est important que les logiciels pour les data soient mis en accès ouvert, et pour la préservation, que les formats aussi s'utilisent des formats libres et des normes, en fait, qui soient ouvertes. Je vous remercie.
Si c'est très court, mais
très court. Il faut faire très attention, comme Pierre a dit très bien, quand on parle de publication, ce n'est pas toujours exactement la même chose parler de publication en mathématiques et en sciences humaines et sociales. Quand on parle de logiciels, on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc il y a effectivement des logiciels qui sont faits pour des plateformes ou pour gérer des journaux, et il y a beaucoup, beaucoup de logiciels scientifiques qui se font dans la recherche, dans le laboratoire de recherche. Et ça fait une partie dans l'open science. Donc oui. il faut pas dire l'open source n'a rien à voir avec la science. Ça dépend de où et de quoi on parle.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les logiciels qui sont directement liés à l'exploitation des données de science, ouais, doivent être mis en open source si on veut pouvoir réutiliser ces données et recalculer. Par contre, le logiciel qui est utilisé pour la diffusion des publications n'a aucune raison d'être.
C'est d'autres
problèmes. Si, on garde ça pour le débat d'après.
D'accord.
Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, mais je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jean-Yves. Et maintenant, nous passons à Pablo. Alors, Pablo, il est à l'université Paris 8, qui est à côté, qui est l'union voisin. C'est un matheux et informaticien.
Juste informaticien.
Ah oui, juste informaticien, spécialiste de crypto. Et il va nous parler de Dissémine, qui est un projet qu'il a développé avec un groupe de collègues étudiants quand ils étaient ensemble à l'école normale il y a 2 ans. Il était étudiant, c'est parti d'un 3 ans.
Ouais. Ok, donc bonjour à tous. Donc ouais, je viens effectivement vous parler de Dissémine, qui est un logiciel, une plateforme qui a pour but de simplifier pour les chercheurs la libération de leurs recherches. Donc je vais vous parler un petit peu de contexte avant, et ça a déjà été fait dans les exposés précédents, donc je vais aller un peu vite là-dessus. Mais donc il existe différents modèles de libre accès. Donc il y a ce qu'on appelle la voie verte. La voie verte, c'est les chercheurs qui vont mettre eux-mêmes leurs publications dans des dépôts, donc comme HAL, comme Zenodo, comme Archive, qui sont des dépôts qu'on a déjà mentionnés. Il y en a d'autres qui peuvent être disciplinaires, nationaux, institutionnels. L'avantage de ces dépôts, c'est qu'ils sont gérés par des gens dans des bibliothèques, par des gens qui sont dont c'est le métier de gérer ses dépôts, et donc c'est pérenne. C'est pas la même chose que quand un chercheur met un article sur sa page web, parce que ben, ça c'est une adresse qui change quand il change de labo, quand le chercheur disparaît, la page web aussi. Donc c'est important d'avoir des articles dans ces dépôts là. Il y a ce qu'on appelle la voie dorée. Donc, à la base, c'était appelé voie dorée parce que c'était censé être un peu cool et tout ça. L'idée, c'était que l'accès libre se fait directement par la revue. D'accord ? Le problème, c'est que les publishers, ils ont des lobbies puissants, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'ils font énormément de profits, parce que c'est eux qui ont la mainmise complète sur le système. Et ils ont détourné complètement ce truc-là pour en faire le modèle auteur-payeur. C'est-à-dire que ils décident en fonction de combien ils ont l'habitude de gagner et de mettre dans la poche de leurs actionnaires, de combien on doit payer pour publier un article. Donc ça pose plein de problèmes qu'on a déjà évoqués, notamment le fait que la sélection d'un article, elle doit se faire sur des bases scientifiques et pas sur les bases de combien il y a de thunes dans le laboratoire qui la produit. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas envie non plus. Et à ce que nous, on appelle la voie diamant et que Benoît appelait le FAIR Open Access, c'est plus ou moins la même chose. Et là, l'idée, c'est de faire de la recherche, de ces résultats, un commun. Un commun, c'est quelque chose qui a trois propriétés, d'accord, donc qui est une ressource, d'accord, qui peut être matérielle ou en l'occurrence plutôt immatérielle, qui a des règles, qui a une gouvernance, d'accord, donc des règles d'accès, ça peut être un accès libre, ça peut être un accès où on contribue, ça peut être, voilà, et qui a un groupe, disons, qui le gère, d'accord. Donc il y a des règles d'accès, il y a une gouvernance au sens d'un groupe qui le gère, et il y a une ressource. Et en fait, les résultats de la recherche devraient être un commun de la connaissance, d'accord, donc un commun immatériel. Mais pour ça, il faut que les chercheurs et chercheuses reprennent le contrôle de leurs moyens de production, c'est-à-dire leurs moyens de diffusion de leur recherche, d'accord. Donc pourquoi c'est les chercheurs qui doivent le reprendre? Parce que c'est eux qui ont le même intérêt que le public en général. C'est eux, leur intérêt pour leur publication, c'est qu'elle soit lue, qu'elle soit accessible. Donc, ils ont l'intérêt commun du public. D'accord ? Donc, c'est l'intérêt commun, c'est que ce soit les chercheurs qui soient propriétaires, en l'occurrence, des titres des journaux. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Ça implique, entre autres, aussi l'utilisation de logiciels libres à tous les niveaux. Ça ne sert à rien, évidemment, de sortir d'une cage pour entrer dans une autre. Hein ? Si jamais il y a un logiciel propriétaire qui change, qui décide de devenir payant très cher ou qui décide de ne plus exister. D'accord, maintenant on a des DRM, un logiciel qui décide de plus exister, il peut être bloqué à distance sur votre téléphone, vos tablettes, vos ordinateurs. Ça pose un gros problème. Donc on a besoin de la communauté du logiciel. Donc, quelle stratégie pour faire cette transition? La question donc, c'est vers quel modèle? Donc vous avez compris que moi je mets plutôt pour le modèle donc Diamant ou FAIR Open Access. Et la stratégie de transition qu'on va avoir, en fait, c'est le dépôt en archives pérennes. Parce que le dépôt en archives pérennes, c'est quelque chose qui va supporter ce modèle diamant. D'accord ? Donc une des façons dont on peut faire du FAIR Open Access, c'est de demander aux chercheurs de déposer leurs articles dans des archives et de mettre en place toute l'évaluation et la publication et tout ça depuis ces archives. D'accord ? Donc en gros, l'idée, c'est de dire que toutes ces plateformes dont on va avoir besoin pour mettre en place le cycle de publication, on veut qu'elles soient supportées par des coûts publics, d'accord, mais moindres que de payer Elsevier et tout ça. Typiquement, Zenodo, Archive Hall, c'est des plateformes qui sont déjà là, qui sont supportées publiquement et sur lesquelles on peut s'appuyer pour mettre en place ce genre de choses. D'autre part aussi, pour la transition, faire de la voie verte, d'accord, donc faire de l'auto-archivage, c'est-à-dire demander aux chercheurs de mettre leurs articles en ligne, ça les encourage à prendre conscience du problème, parce qu'il y a plein de chercheurs, comme eux, ils ont accès aux revues de leur domaine parce que leur université paye un abonnement, ils ne sont même pas au courant qu'il y a un problème d'accès citoyen, par exemple. Évidemment, ça permet à tous, aussi, une fois qu'un article est dans un dépôt, d'y accéder, y compris les articles dans le passé, parce que même si on change les choses maintenant et qu'on dit genre allez, à partir de maintenant on fait du super open access, FAIR, Diamant et tout ça, les articles qui sont déjà publiés, qui sont derrière des paywalls ou qui sont pas encore en ligne, on n'y a pas accès, d'accord. Donc là, ce qu'on veut, c'est que les chercheurs mettent leurs articles, même ceux qui sont déjà publiés. Comme je vous l'ai expliqué, ça peut servir de socle pour une transition vers la voie Diamant. Les obstacles au dépôt qu'on constate, c'est une méconnaissance de leurs droits par les chercheurs et chercheuses qui ne savent pas s'ils ont le droit de déposer leurs papiers, parce que comme on vous l'a expliqué, quand ils publient, ils donnent une partie de leurs droits ou tous leurs droits selon les pays aux publishers. Des fois, c'est compliqué aussi de déposer son papier. Donc il y a des dépôts où c'est facile, Archive, Zenodo, Libreprint de l'IACR, mais HAL, par exemple, c'est fatigant. Donc le but de Dissémine, c'est de répondre à ces deux problèmes en aidant les chercheurs à déposer simplement. Donc Dissemine, c'est une plateforme libre, tout est sur GitHub, qui simplifie le dépôt en archives pérennes. Donc pour chaque chercheur, Dissemine, il affiche une liste de ses publications, il l'informe sur le taux de ses publications qui sont disponibles en libre accès, celles qui pourraient l'être, donc sur lesquelles il a le droit de déposer, mais pour lesquelles il ne l'a pas encore fait, il ou elle, hein, à chaque fois, celles dont on ne connaît pas le statut, donc des fois c'est pas clair, c'est une publication dans un journal où on ne sait pas trop quelle est sa politique, voilà, et puis celles où le publisher il a interdit sa mise en ligne. Okay, et puis pour chaque publication, Dissemine récupère ses métadonnées, propose un accès direct au PDF s'il en existe déjà une version accessible, et puis propose d'en faire un dépôt en un clic dans une archive pérenne si ce n'est pas le cas. Ou même si c'est le cas, par exemple, parce qu'il peut y avoir une version accessible, mais à un endroit où on estime que ce n'est pas assez pérenne, ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je ne sais pas s'il y a Internet et tout, donc du coup j'ai fait des screenshots. Donc ça c'est la page d'accueil de Dissemine, c'est la page d'accueil actuelle, il y a une nouvelle release qui va arriver dans quelques temps. Donc l'idée c'est que on est un chercheur, on tape son nom et son prénom et son nom, on se cherche, on va le faire avec moi, voilà. Je voulais incriminer personne, alors je me suis dit je vais me prendre moi comme exemple. Donc quand on clique dessus, il nous dit genre est-ce que t'es Pablo Rosy? Oui c'est moi, donc on va cliquer sur oui, donc là, je suis enregistré sur Orchid, donc il me connaît, il est content. Donc ensuite on arrive sur ma page et on voit genre au moment où j'ai pris ce screenshot, donc il y avait cet article qui n'était pas encore déposé mais qui aurait pu l'être par exemple, et puis il y a un certain nombre d'articles qui sont déjà déposés, donc là il me dit t'as deux articles qui sont en gold open access, voilà, ceux qui sont accessibles depuis le publisher, 5 articles que tu as déposés et puis 2 que tu n'as pas déposés mais que tu pourrais le faire, d'accord. Et puis ensuite on a la liste des articles là et puis il y a plein d'informations. Et puis si on va sur la page d'un article, donc j'ai pris celui que j'avais pas, l'autre que j'avais pas déposé, on voit donc un certain nombre d'informations, chez qui il est publié, et puis il nous dit, t'as le droit de déposer le préprint, t'as le droit de déposer le postprint, donc préprint c'est la version auteur initiale, disons, postprint, ce qu'on appelle postprint, c'est la version auteur, mais avec les corrections, les prises en compte des corrections du peer reviewing, d'accord, donc de l'évaluation par les pairs, et puis la version publiée, c'est la version produite par le publisher. D'accord. Donc il y a des domaines où le publisher fait du travail pour de vrai. Nous en science, comme on utilise déjà, il nous file un template, un modèle dans un moteur de production de documents qui s'appelle LaTeX. En fait, il y a quasiment rien qui change. D'accord. La version qu'on lui file et la version qu'il publie, c'est la même chose. Donc bon. Voilà.
Qui est en open source. Hein.
Oui, évidemment.
Vous avez dit nous en sciences, en fait, c'est nous en informatique et en mathématiques.
Non, pas toutes les sciences. En chimie, en bio, ils font pas vraiment ça, mais sinon, et encore, ça dépend où.
Disons, en gros, toutes les sciences exactes, ça s'appelle comme ça, le chercheur fournit, quand il est soumis à la revue, c'est quasiment caméra ready. Oui. En tout cas, nous en maths, en physique, lui en informatique, c'est caméra ready. Ça veut dire que c'est déjà dans une mise en page finale.
On nous demande de produire des caméras ready. Ouais, c'est-à-dire que le publisher nous demande de faire le travail d'édition au sens de secrétariat d'édition, de mise en page.
Et le logiciel LaTeX, qui est absolument génial, fait du caméra ready. Il y a toutes les figures en page, toutes les équations.
Aussi, vous parlez aussi de biologie, d'agronomie.
Il y en a encore beaucoup qui utilisent du Word. Ça dépend,
il y a des sous-communautés, par exemple en biologie quantitative.
Ils sont déjà
sur la
technologie.
Si, en ingénierie, si, ils utilisent.
Dans LaTeX aussi.
Même en physique, ça dépend des sous-communautés.
Ah, ouais. Oh, toute la physique donc.
Ouais, non, si, LaTeX c'est vraiment la norme. Moi, je publie dans pas mal de trucs comme ça. On va dire, la majorité des journaux, c'est tu envoies soit en LaTeX, soit en Word. Voilà.
Ok. Mais ça te précise. Ouais.
Et sinon, tu peux aussi envoyer manuscrit, mais ça se fait plus.
Quand on dit déposer, ils ont su que c'est déposé puisque c'est pas publié, c'est...
Ça, je vais l'expliquer après. On a des sources de données. Dissemine va moissonner plusieurs sources. D'accord. Donc il y a déjà des efforts. Il y a déjà des universités qui font des efforts d'aller moissonner chez les éditeurs, pour savoir ça. Et nous, on récupère ces sources-là et on moissonne aussi nous-mêmes d'autres archives. Et c'est comme ça qu'on sait, d'une part, quelles sont les publications qui existent et lesquelles sont disponibles. Alors, des fois, on trouve pas tout. Hein. Des fois, c'est pas instantané, donc ça arrive dans les API, la disponibilité. Mais on fait ce qu'on peut. L'idée de Dissemine, faut bien comprendre que c'est pas de faire des profils de chercheurs et de lister toutes leurs publications. L'idée de Dissémine, c'est de maximiser le nombre de publications qui sont disponibles. Donc à chaque fois que Dissémine trouve une publication qui n'est pas encore a priori disponible et qu'il propose aux chercheurs de la publier simplement en un clic, on a gagné quelque chose. C'est pas grave si on trouve pas toutes leurs publications. C'est mieux parce que bah, les gens, quand ils essayent Dissémine, ils disent « Ah, oh, il a pas trouvé toutes mes publications, je suis pas content, c'est nul ce truc ». Voilà, il y a une réaction un peu comme ça. Donc on essaye que ce soit le plus complet possible, mais c'est pas non plus un but ultime d'être ultra complet. D'accord ? Nous, notre but, à chaque fois qu'on met une publication en open access de plus, on est content. Donc on a ce truc-là, puis quand on clique sur un des boutons upload, donc vous remarquez qu'on peut uploader aussi la version qui est soi-disant interdite, d'accord ? Parce que, alors, ça pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on veut surtout pas empêcher les gens de faire ça. S'ils ont envie de prendre la responsabilité de mettre en ligne une version qu'ils estiment meilleure et qu'ils pensent que tout le monde devrait l'avoir, mais qu'il y a trois capitalistes dans une maison d'édition qui ne veulent pas, ben nous on les laisse faire. Et d'autre part, ben, y a la loi qui vient de passer, la loi numérique, qui permet par exemple au bout de 6 mois, quand on a publié quelque chose en science, de le mettre en ligne. Et ça, ça ne va pas forcément se refléter sur les données fournies par les éditeurs dans la base de données Sherpa ou Héloïse. Donc une fois qu'on clique sur déposer, ben, on se trouve avec un formulaire où on peut simplement choisir un fichier sur notre ordinateur, entrer une URL ou le glisser déposer là-dedans. Et ensuite, donc là, j'avais cliqué sur Postprint. Par défaut, ça choisit Zenodo comme dépôt. Et pour l'instant, il n'y a que ça parce que c'était le plus simple et le plus ouvert et celui qui fait toutes les disciplines. Et puis une metadata. Donc en gros, tout est déjà rempli. Si on ouvre les options, donc, voilà, on pouvait choisir ça. Pour l'instant, il n'y a que Zenodo. On est en train de développer pour HAL. En fait, c'est prêt, mais on attend pour le mettre en ligne que certaines choses soient réglées. Et puis ensuite, dans les métadonnées, donc il y a l'abstract qui est déjà pré-rempli vu qu'on l'a récupéré. Et puis on peut choisir la licence si on a récupéré une licence quelque part. Voilà. Et ensuite, ben, on clique et ça fait le dépôt dans Zenodo. Pour l'instant, et puis ça fera le dépôt dans HAL si on le choisit plus tard. Voilà, donc au niveau du développement, donc, comme je vous disais, c'est un logiciel libre, donc c'est principalement en Python. Et puis bon, si vous allez sur le dépôt GitHub, il vous dit aussi tout ce qu'il y a d'autre. Il y a aussi du HTML, c'est JavaScript, et il y a d'autres. Chose un peu sale, mais on va pas en parler. Et l'équipe, c'est une dizaine de personnes qui gravitent autour du projet. Donc il y a des gens qui sont là, par exemple, parce que bah, c'est des gens qui sont en philosophie, en histoire, qui nous conseillent pour nous dire... parce que nous, évidemment, les gens qui développent le projet, on est tous informaticiens. Et du coup, on n'a que les habitudes de publication de l'informatique. On peut pas faire un projet qui marche pour tout le monde si on n'a que notre vision à nous. On a nos potes qui sont là et on leur demande souvent des conseils. Donc les efforts de développement sont principalement portés par Antonin Delpeuch qui par contre maintenant a commencé une thèse et du coup il a moins de temps et c'est pour ça qu'on a besoin de mains et de cerveaux supplémentaires sur le développement. Donc nos sources de données principales, donc c'est Crossref, Base, Sherpa Romeo et Zotero. Donc Sherpa Romeo pour les droits donnés sur les publications au niveau de la mise en ligne, Zotero pour les métadonnées genre abstract et tout ça, Crossref pour liste de publications et Base pour un peu savoir qu'est-ce qui est dispo où. Et puis ensuite on est capable de moissonner tout ce qui est dispo via le protocole OIPMH, donc que les bibliothécaires connaîtront. Donc typiquement on moissonne Archive, HAL, PubMed Central, OpenAIR, DOAJ, Perse, Kern et NUMDAM pour l'instant. De temps en temps on a des gens qui nous disent coucou, dans votre université on a ça, est-ce que vous pouvez le rajouter? Bon bah on fait s'ils ont du OIPMH, sinon on leur fait faire. Puis ensuite, je vais vous parler de deux autres projets annexes qu'on a lancés et qui commencent à avoir un peu de succès rapidement. Donc il y a DOAI. Donc chaque publication scientifique, quand on la publie, on lui associe un DOI. Donc ça veut dire Digital Object Identifier. L'idée, c'est que ben, avec ce truc-là, donc c'est une espèce de numéro voilà, qui ressemble à cette chose dégueulasse là. Ben avec ça, en fait, il suffit de la mettre derrière ce http://dx.doi.org et puis ça nous amène directement sur la publication, d'accord ? Sauf que les DOI, ils sont fournis par un consortium qui sont les publishers, en fait. Du coup, ce resolver, le resolver classique que tout le monde utilise, ben, il amène sur les paywalls, sur les pages de publishers, où ça vous dit, genre, ben, si tu veux consulter ce PDF à 6 pages, il faut payer 45 euros. Voilà. Du coup, nous, on a une base de données qu'on a construite pour Dissémine où on est capable d'associer à un DOI, si jamais l'article est disponible, un lien vers un PDF. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un resolver alternatif de DOI qui, lui, va directement, si possible, vous pointer sur le PDF et sinon, vous rediriger sur celui-là. D'accord.
En open access.
C'est bah en oui. cours, c'est un projet en cours.
Ça, ça existe déjà. C'est déjà disponible. Je sais pas trop si je peux en parler. Il y a d'autres gens, les gens qui font Impact Story. Bon, c'est un autre projet porté par aux États-Unis, je crois, qui ont eu un peu une idée similaire. Enfin, ils ont eu une idée similaire en regardant DOAI.io. Sauf qu'eux, ils appellent ça OADOI. Il est question d'unir nos efforts pour faire des choses mieux. La différence, donc, DOAI.io prend les données de Dissemine. Elle fait une chose en plus. C'est qu'elle récupère les données, les PDF qui sont sur ResearchGate et Academia.edu. Pourquoi DOI.io le fait ? Parce qu'on veut avoir le plus de PDF disponibles. Pourquoi Dissemine ne prend pas ResearchGate et Academia ? Parce que c'est des startups et que le jour où elles se font racheter par Elsevier, c'est fini. D'accord ? Donc un petit succès de DOI, et que je vais vous expliquer, vous allez voir le projet d'après, pourquoi on a réussi à faire ça. C'est que Academia, par exemple, Academia.edu demandait pour l'accès au PDF de s'inscrire, ils le font plus, et ils ont même une interface OAI PMH standardisée maintenant pour qu'on puisse les moissonner. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, on a créé aussi OABot, donc c'est à nouveau une idée d'Antonin Delpoche qui concentre tous les efforts de développement. Donc là, l'idée, c'est d'améliorer Wikipédia. Donc vous savez, Wikipédia, c'est une encyclopédie. Les gens qui éditent Wikipédia, vous, moi, tout le monde, et les modérateurs de Wikipédia mettent vraiment un point d'honneur à citer les sources, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'articles Wikipédia où il y a des liens vers des articles de recherche, d'accord ? Qui disent, cette étude, ces statistiques, elles viennent de tel article qui a été peer-reviewé, qui est validé par les scientifiques. Le problème, c'est qu'évidemment, quand on ligne vers un article de recherche, souvent on utilise le DOI, et souvent on met un lien vers la page de l'éditeur où l'article n'est pas accessible. Du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est Wikipédia, qui prône l'ouverture, la science ouverte, le commun et tout ça, et qui link vers quelque chose qui est payant et qui n'est pas accessible.
Enfin, il est accessible payant.
Qui du coup n'est pas accessible.
Ouais, pas mais
qui n'est pas, oui. L'idée de quelqu'un qui brosse Wikipédia pour aller voir de l'information, c'est pas de se dire, genre, tiens, pour vérifier cette information, il faut que je paye 30 euros, et puis pour vérifier la suivante, il faut que je repaye 30 euros, et puis pour vérifier... Enfin, un article Wikipédia, pour être sûr de sa véracité, au final, il faut payer 10 000 euros, quoi. Mais parce qu'il link à d'autres articles, tout ça. Enfin, bon. Voilà. Donc, autant que possible, les sources de Wikipédia sont citées, et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y en a un robot qui va parcourir les pages Wikipédia, et quand il voit des liens vers des articles, et ben, il les remplace vers les liens vers les PDF. D'accord ? Et donc, c'est ce levier-là en discussion avec Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, je ne sais plus comment il s'appelle, le fondateur de Academia.edu et Dissemine, d'accord, qui ont fait en sorte que Academia.edu se crée un dépôt ouvert, enfin une API ouverte au IPMH et rendre disponibles les ces PDF, parce que quand ils ont vu que ResearchGate l'avait fait, c'est là que c'est intéressant de mettre en concurrence les boîtes privées, quand ils ont vu que ResearchGate l'avait fait, ils ont dit mince, mais Wikipédia c'est... c'est des millions et des millions de pages vues par jour, et il y a plein de gens qui arrivent du coup sur ResearchGate par ces liens-là. Du coup, nous, on ne veut pas manquer ce train-là, et du coup, on veut absolument aller là-dedans. Alors, nous, on leur a dit oui, c'est super, si vous mettez le truc à disponible et que tout le monde a accès au PDF, on le fait, il n'y a pas de souci. Évidemment, on a un ordre de préférence, et on privilégie toujours quelque chose qui va être dans Zenodo ou Allo Archive, si jamais un article est disponible sur Academia, ResearchGate et Zenodo, par exemple, on va prendre suite Zenodo, d'accord ? C'est celui qui est le plus pérenne, c'est celui qui est le plus sûr. Voilà, donc c'était en gros ce que je voulais vous raconter au niveau de ça. Ce qu'il faut retenir de mon talk, c'est que les résultats de la recherche devraient être un commun de la connaissance, que pour ça, on a besoin de transitionner vers le libre accès, et que les bons modèles de libre accès, ils utilisent de l'open source, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà.
Merci. Questions spécifiques à son exposé ou est-ce qu'on lance déjà la discussion plus générale ?
Juste. Ouais. Une petite question. Si vous avez, si l'auteur n'a pas d'ORCID dans Dissemine, comment vous pouvez faire un harvesting de
Alors en fait, c'est pas obligatoire d'avoir un ORCID. Le truc sur lequel ça nous aide, c'est la désambiguation des noms.
Donc sinon, vous vous basez seulement sur le nom ?
Sinon, on se base seulement sur le nom et du coup, il y a un peu des erreurs. Alors en fait, donc là, en fait, avec Dissemine, donc on a une association qui s'appelle CAPCH, donc c'est le Comité pour l'accès aux publications en sciences et humanités, je crois. Et en fait, on a passé un partenariat là avec Couperin, donc, qui est le consortium national qui négocie avec Springer, Elsevier et tout ça pour ces choses-là. Donc Couperin est intéressé par Dissémine parce que ben, ça leur fournit des stats de combien il y a d'open access. Donc ça veut dire qu'ils peuvent du coup avoir un poids dans la négociation avec Elsevier en disant bah, regardez, il y a 60% des articles de votre tel journal qui sont en open access, on ne paye que 40% du prix que vous nous demandez. D'accord ? Voilà, donc ça c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Ils ne sont pas encore au point de faire ça, mais nous, on allait les voir en leur vendant ça, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter avec eux.
Il faut parler du modèle hybride, c'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, le contribuable, il paye les abonnements et il paye les articles processing charge que les chercheurs payent. C'est-à-dire qu'on paye deux fois aujourd'hui.
Voilà. Il y a des journaux qui sont hybrides, c'est-à-dire que l'auteur peut choisir de payer pour que son article soit en open access, mais c'est un choix seulement. Du coup, ça veut dire que ben, si on veut avoir accès au journal complet, il faut quand même s'abonner au journal. Donc il y a des bibliothèques qui payent du coup deux fois. Donc, Dissémine permet de mesurer ce genre de choses. Et du coup, ce qu'on fait, donc Couperin, ce qu'il nous propose, c'est justement de prendre un abonnement à Orchid, donc qui est un truc un peu cher aussi, que nous, on ne peut pas assumer, parce que pour l'instant, c'est entièrement développé sur nos fonds à nous, quoi, y compris l'hébergement, les serveurs et tout ça. Et ça, ça va nous permettre de typiquement faire depuis Dissémine, de permettre aux gens, quand ils se loguent dans Dissémine, de dire bah, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, et de mettre à jour leur page Orchid, ou de leur créer une page Orchid, donc même s'ils en ont pas, pour faire de la désambiguation et que les gens puissent dire ça c'est moi, ça c'est pas moi, et que ça se mette à jour bien, et qu'ensuite la désambiguation en profite à tout le monde, même en dehors de Dissémine. Voilà. Ouais.
J'ai juste une petite intervention à faire, c'est par rapport à Orchid, oui. Y a des concurrents qui sont nettement moins chers.
Oui, mais qui ne sont pas utilisés, c'est ça le souci.
Ils ne sont pas utilisés par la recherche, ils sont utilisés par ailleurs.
Hein. Ouais, bah parce que même dans la recherche...
Je pense à l'ISNI, par exemple.
Ah ?
Je pense à l'ISNI, par exemple.
C'est voisin.
C'est un organisme, un numéro qui donne...
Ah, oui.
C'est plus large pour qui.
Oui, oui, c'est beaucoup plus large, oui, effectivement.
Et c'est quelque chose qui...
Ça fait partie des notices d'autorité qui sont utilisées dans Wikipédia, oui.
Ouais, ouais. Orchid, c'est que pour l'identification des chercheurs.
Orchid, c'est juste pour la recherche. Il y a aussi Researcher ID, ALID, enfin, il y en a pas mal, mais en fait, c'est Orchid qui s'est imposé de fait, parce que c'est politique en fait. Hein,
c'est un peu comme le DOI, c'est-à-dire que derrière Orchid, il y a en fait les publishers. Et si les publishers utilisent Orchid, Orchid va s'imposer, parce qu'ils sont quand même les acteurs dominants aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle quand même avec Orchid, c'est que ça a un statut de non-for-profit organization et surtout avec un statut très particulier qui est C03 quelque chose, qui fait qu'ils ne peuvent pas être achetables. Mmh. Et pour nous, c'est très très important parce que pourquoi notre communauté est traumatisée ? C'est que quand les chercheurs développent des outils du genre une plateforme collaborative, etc., avec une petite start-up qui vous fait le super truc dont vous avez vraiment envie et la communauté se met dedans, au bout d'un ou deux ans, elle est rachetée par un gros publisher. Au niveau des repositories, c'est-à-dire des archives, par exemple pour les sciences humaines et sociales, il y avait une énorme archive qui était équivalente à Archive pour nous en physique, qui s'appelait SSRN, Social Science Research Network. Elsevier vient de l'acheter. Vous avez Mendeley, Elsevier l'a racheté. Vous avez, voilà. Et c'est tout comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'il faut arriver à faire des start-up. Moi, je suis absolument pour le modèle des start-up, mais des start-up qui ne sont pas rachetables. Alors, une technique pour qu'elle soit pas rachetable, c'est qu'elle n'ait pas de valeur. C'est-à-dire, déjà, si le logiciel est open source, ça calme le jeu du fait que la start-up va être rachetable. Ah oui, parce que
tu recopies.
Ouais, mais quand même, ça limite.
Mais justement, maintenant, on a MariaDB. Parce que c'était open source.
Oui,
mais
c'est ça.
Enfin, peut-être MariaDB sera racheté aussi. C'est pas parce que c'est open source que ça va pas être racheté.
Non, mais
oui,
sauf
mais
que
du coup, on peut
forquer et continuer à utiliser la technologie.
Tu limites les risques. Et si en plus la boîte est dans ce statut américain que je mentionnais, si la boîte est dans ce statut, elle est obligée, si elle s'arrête par exemple, de laisser toutes les données en accès ouvert. C'est vraiment dans les statuts de la boîte. C'est très important. On en a discuté assez en détail avec Orchid. Creative Commons est sous le même statut et Orchid est sous le même statut. Et ça, nous, les chercheurs, ça nous donne confiance. Si vous n'avez pas ce statut-là, méfiance, parce qu'on est chaud de tout. Je vais te le dire exactement.
C'est entre parenthèses 503, mais je ne suis pas sûr du numéro. C'est un truc du genre.
Je vais vous dire exactement, je le mets quelque part, mais ça me demande des recherches.
Du coup, je vous propose qu'on... Ah.
Voilà, on peut commencer... Oui, on se remet devant...
On
se
met tous là, oui.
J'ai une petite commentaire à ce que tu viens de faire, mais on ne se rend pas compte, mais tu viens de sortir les mots open source à pas la valeur.
Oui,
non, tu, non, non, bah, vous, non, vous, tu as raison. Je veux dire. Teresa, je te remercie énormément. Je te remercie énormément de cette précision parce que c'était effectivement pas ça que je voulais dire. Je voulais simplement dire que si les chercheurs font confiance à une start-up qui a fait une super plateforme que tout le monde utilise, qui rentre dans nos habitudes, ok, et que 2-3 ans après, on découvre que cette start-up a été rachetée par Elsevier, alors que nous, toute notre stratégie, c'est de se dégager de ces gros publishers qui, en fait, verrouillent complètement tout le système. Et là, je précise un peu ce que j'entends par verrouiller tout le système. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Verrouiller tout le système, ça veut dire qu'ils ont le contrôle vertical. Ils contrôlent les plateformes qu'on utilise pour faire le peer reviewing, c'est-à-dire contrôler, c'est-à-dire que la plateforme leur appartient légalement. Okay. Ensuite, ils ont les plateformes de publication, ça leur appartient légalement, le titre des journaux, etc. Ensuite, au-dessus, ils ont la plateforme qui fait la bibliométrie, c'est-à-dire qui vous édite tous ces taux de citation et les impact facteurs des journaux, etc., qui vont servir à l'évaluation des chercheurs et des projets de recherche, et en plus, pour aider gentiment nos dirigeants, on va dire, les managers de la recherche, ils font une autre plateforme au-dessus, dans le cas de Elsevier, ça s'appelle SciVal, qui vendent à nos propres institutions pour faire l'évaluation des chercheurs. Alors, entièrement, toute cette verticalité est payante. Et pourquoi elle est payante? Parce qu'ils possèdent tout, quelque part, c'est propriétaire. Vous voyez, donc, c'est ça qu'on essaie de... Il faut absolument qu'on s'en dégage, parce que sinon, la recherche est sous leur contrôle. Il faut vraiment s'ouvrir les yeux, là. Alors, je parle effectivement du côté des sciences exactes, parce qu'il y a une domination de quelques grands publishers, essentiellement Elsevier, ensuite Springer Nature... Et éventuellement, après, il y en a 2 ou 3 autres. Mais ils sont en cartel. Donc, ils se mettent d'accord sur un modèle. Et nous, les chercheurs, on se rend compte qu'on ne peut plus bouger. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus... Je veux dire, le système nous échappe. Moi, je suis éditeur j'ai été éditeur dans plusieurs revues de maths. Et le problème, c'est qu'ils nous obligent à utiliser leur plateforme éditoriale pour faire le peer reviewing. Eh bien, en nous obligeant à faire ça... Ça veut dire qu'ils essayent d'alimenter des systèmes d'intelligence artificielle qui vont faire du peer reviewing quasiment automatique. Et je donne l'exemple de ça parce que c'est très important. Moi, j'ai le cas de collègues qui ont reçu la plateforme, leur demande de référer leurs propres articles. Alors le chercheur, il dit, non, moi je suis auteur, ce n'est pas moi qui vais référer mon propre article. Mais comme c'est une plateforme, c'est un robot, un mois plus tard, le même chercheur, il reçoit un message en disant, mais enfin, vous n'avez toujours pas envoyé votre rapport de référé. Parce que comme c'est des robots, il n'y a personne derrière. Vous voyez, c'est tout automatisé. Il faut vraiment être chercheur soi-même pour le savoir, parce que c'est parce qu'on fait du peer reviewing qu'on est au courant. Mais si vous voyez les dérives actuelles, ça fait très, très peur. Et le résultat de tout ça, c'est aussi que beaucoup de chercheurs, finalement, refusent de faire le peer reviewing parce qu'ils sont très maltraités. Ils voient que c'est... On reçoit des mails toutes les semaines en disant « Mais enfin, vous n'avez toujours pas envoyé votre rapport, etc. » Alors que peer reviewer un article très, très technique, ça prend du temps. Ce n'est pas un truc qu'on fait à la va-vite. Et si on le fait à la va-vite, c'est mauvais. Donc, la qualité de la recherche, on laisse passer plein d'articles avec des erreurs. Et je ferai remarquer qu'il y a des grands journaux très fameux qui ont... Fameux. Alors, justement, fameux en nombre de...
En impact facteur.
Mais comme les impact facteurs sont calculés par les publishers, tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous faisait remarquer qu'un nouveau journal qui se crée, il n'a pas d'impact facteur. Et il n'aura probablement jamais d'impact facteur s'il se met vraiment en concurrence sur les grands éditeurs qui ont... Non, mais j'exagère à peine, parce que le risque, il est là. Attends, excuse-moi. Si c'est un publisher...
Il y a suffisamment de problèmes pour ne pas en imaginer d'autres.
Non, il faut aussi prévoir. Il faut prévoir les risques. Je peux même donner un détail. Donc, Scopus appartient à Elsevier. Et Web of Science, qui est le concurrent, appartenait à Thomson Reuters, qui vient de le vendre à une private equity company à Hong Kong et au Canada, qui va le remettre sur le marché, et je peux prédire que Elsevier va l'acheter. Ou sinon, ça sera Springer. Mais ça veut dire que l'évaluation des chercheurs est entre les mains des publishers. L'évaluation de la bibliométrie, parce que c'est eux, et la bibliométrie, les algorithmes, c'est eux qui les définissent, les données sont à eux, ce n'est pas ouvert. Je suis désolée, tu ne peux pas vérifier l'impact facteur d'un journal.
L'impact facteur se négocie, ça c'est vrai.
Ah ben non, mais c'est n'importe quoi. Et après, on juge les chercheurs sur dans quelle revue ils publient quel impact facteur.
Mais pas connaissance de journal sérieux qui soit fait refuser un impact facteur.
Moi, j'en connais plein, je peux t'en citer plein. J'ai vraiment plusieurs cas. Ok, donc on ne va pas rentrer trop en détail là-dessus qui est spécifique. Effectivement, c'est une question de bibliométrie, mais je voulais faire passer le message qu'ils ont
un contrôle vertical. Si pour vous, ça vous convient, d'accord. Mais moi, ça ne me convient pas en tant que chercheur.
Moi, je pense que la solution, ce n'est pas vraiment de créer une start-up, parce qu'une start-up, une fois qu'elle rentre en bourse, elle peut facilement être rachetée.
Mais c'est ça.
C'est la solution, c'est l'échelle de l'Union européenne, parce qu'il y a à peu près entre 200 et 700 milliards de dollars chaque année dépensés dans la recherche. Pourquoi ne pas mettre 7 milliards juste pour la publication et parce que ça va...
Oui.
C'est doit être quelque chose qui appartient à...
C'est clair que si on prenait juste l'argent qu'on dépense en abonnement à l'heure actuelle et qu'on l'utilisait pour faire un système, on ne saurait pas quoi faire de l'argent. Ça, c'est évident.
Oui. Il y en a tellement.
C'est très cher. Mais il y a une raison. Ce que tu disais tout à l'heure sur le rapporteur, la personne qui reçoit son propre article à rapporter, c'est juste que c'est un éditeur qui a mal fait son travail. Je veux dire, que ce soit automatique ou pas automatique, c'est du mauvais travail. Et c'est un des problèmes. Mais c'est du mauvais travail parce qu'ils n'ont pas d'incitation à faire du bon travail. De toute façon, voilà. On a besoin des articles, donc ils nous le vendent au prix où ils sont très bons à jouer le prix maximal qu'on est prêt à mettre, et on le paye. Donc,
mais voyez, la solution dont vous parlez, par exemple, Open Edition, c'est le cas. Open Edition, c'est financé par de l'argent public, du CNRS, de l'Université de Marseille, et Pierre a expliqué ça. Et au niveau européen, justement, il faut se bagarrer pour qu'il y ait des financements qui le permettent. Le gros problème au niveau européen, c'est que vous le savez tous, c'est que le temps d'existence d'une commission, ils ont des mandats qui sont limités dans le temps. Or, ce qu'on veut, c'est des infrastructures pérennes. Donc, la Commission européenne a joué un rôle très important d'aide, de soutien financier pour développer Open Air, qui est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Et Zenodo est d'ailleurs la plateforme de Open Air, la plateforme de repository liée à Open Air. Et il faut absolument que Open Air soit pérenne. Mais pérenne, comment ?
C'est pas tout à fait.
Oui. Non, c'est le CERN met de l'argent aussi, mais quand même.
Non, c'est pas ça. C'est Open Air, c'est seulement pour le long tail of science. C'est pour les instituts qui n'ont pas de dépôt et qui décident d'utiliser Zenodo.
Oui. C'est pas.
Non.
Oui, c'est pour cela.
Je le sais. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais simplement. Oui, mais c'est Open Air qui fait Zenodo pour avoir un long tail. Le financement vient de Open Air, donc vient de la Commission européenne. Donc, c'est lié à cette commission. Quand il y en aura une nouvelle, peut-être qu'ils décideront d'arrêter le financement. Donc là, le gros danger, c'est qu'on n'est pas pérenne. Donc, il faut arriver à trouver un système de financement d'infrastructures pérennes. Et à ce niveau-là, les États, bon, typiquement le CNRS, va durer peut-être plus longtemps qu'une commission européenne.
Mais le problème, c'est que le seul modèle économique qu'on connaisse qui soit pérenne, c'est le modèle des publishers.
Voilà.
Parce qu'ils existent depuis des centaines d'années.
Après, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand tout à l'heure, on disait que c'est beaucoup d'argent, je peux vous donner des chiffres. Par exemple, Jussieu, qui est une des plus grosses facs scientifiques en France, juste pour Elsevier, qui est un des éditeurs scientifiques, c'est 1 million d'euros par an. Avec 1 million d'euros par an, je ne sais pas si vous imaginez le service qu'on peut fournir, d'accord ? On peut payer plusieurs personnes pour faire de la mise en page, on peut payer des serveurs, on peut payer... Enfin, c'est monstrueux. Le CNRS, en ressources documentaires, c'est plus de 30 millions par an. C'est généralement 35-36 millions, d'accord ? Donc, même sans parler de dire qu'il faut aller à l'échelle européenne ou quoi, je veux dire juste, si on décidait collectivement de faire des politiques, peut-être au niveau européen, au niveau national, mais que les financements, d'accord, les sources de pérennité, d'accord, Jussieu, c'est assez pérenne, hein, ils vont pas, enfin, l'université va pas se casser la gueule tout de suite, c'est de l'argent public, voilà. Juste le budget pour Elsevier de Jussieu, si on arrêtait de payer ses abonnements, qu'on passait à un autre système, il permettrait de faire vivre un écosystème sur des emplois stables, publics, de fonctionnaires qui sont là pour faire bien leur travail, dans l'édition, dans les bibliothèques, dans l'archivage, dans tout. Pour toute la recherche européenne. Enfin, j'exagère un petit peu, mais si on prend juste le budget du CNRS, là j'exagère plus du tout, quoi. Alors que c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il n'y a pas qu'une fac, il n'y a pas qu'un institut de recherche.
Moi, ce que je vois dans ce que vous décrivez, c'est que, effectivement, on reste au niveau, on va rester au niveau national, au niveau, voire européen, je ne suis pas sûr que les pays européens, mais c'est au niveau mondial qu'on a le problème, parce que si on dit tous les chercheurs français publient dans Open Edition, dans Open Access, mais que les autres chercheurs ne le font pas, vous n'aurez pas accès, et qu'en plus,
à un moment donné,
on dit que les bibliothèques avec les financements dans l'Open Access et pas ailleurs.
C'est mondialement que ça se passe en ce moment.
Aujourd'hui, c'est mondial. Et un chercheur normal aujourd'hui, il publie avec des co-auteurs qui sont de plein de pays. Ben, ils font la même chose, simplement, ils ont le même problème que nous. C'est-à-dire qu'il y a des publishers mondialisés qui contrôlent tout le système, et les organismes publics, comme par exemple aux États-Unis, la National Science Foundation, ils sont coincés comme nous, la France, parce qu'ils doivent, il leur faut qu'il y ait un soutien politique très fort pour accepter d'aller se mettre avec des plateformes qui, effectivement, vont faire concurrence à ces publishers qui sont considérés comme les petits joyaux parce qu'ils font, ils ont un lobbying fantastique. Et ce qu'ils expliquent aux politiciens, bon, moi, je suis assez au courant de l'intérieur de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est très simple. Ils expliquent aux politiques que le peer reviewing, c'est grâce à eux. C'est-à-dire la vérification des articles scientifiques, c'est les revues à comité de lecture, c'est nous, les publishers, qui garantissons ça. Mais ils ne disent pas aux politiciens que les chercheurs font ça sans être payés par les publishers sur de l'argent public. Et franchement, le politicien, il ne va pas comprendre que nous, les chercheurs, on est assez cons pour travailler gratuitement et ensuite racheter notre travail. Ça, c'est difficile à comprendre. Mais c'est exactement la situation aujourd'hui. Et leur lobbying est énorme. Et nous, les chercheurs, on n'a pas de lobbying pour faire ça. Parce qu'on fait de la recherche pendant ce temps-là. On ne fait pas du lobbying.
Répondre à la question.
J'ai perdu la question.
C'était quoi la question déjà?
Nos communautés, elles sont organisées au niveau mondial. Comme disait Marie, on collabore entre nous au niveau mondial. On est dans des comités de rédaction avec des gens du monde entier. Donc, dans chaque discipline, on a une communauté mondiale de chercheurs. Et si cette communauté, à un moment, décide de changer de modèle, elle changera de modèle. La difficulté, c'est que c'est une décision collective. Mais quand on fait des choses à l'échelle de la France, c'est parce qu'aussi on a des structures dans lesquelles on sait à quelle porte frapper, on sait où qu'on peut trouver de l'argent, etc. Mais on fait jamais des journaux. Enfin, je sais pas, mais moi, le projet que je présentais, c'est pas pour faire des journaux français. On fait des journaux internationaux. On va publier des gens du monde entier et on va être lu par les gens du monde entier. Et les journaux français, j'étais à Grenoble dans mon poste précédent, qui publiait un journal de maths qui s'appelle les Instituts Fourier. Ça publie des Américains, ça publie des Anglais, ça publie. On se publie les uns les autres. De toute façon, on agit vraiment en réseau, et notre réseau, il est déjà mondial. Donc c'est pas parce qu'on a un projet financé sur l'argent français ou sur l'argent européen qu'il sera français ou européen. Il sera de toute façon mondial parce qu'on ne sait faire que ça. Donc ça, c'est quand même un truc
qui est
vraiment fort dans notre, façon de travailler.
Une revue scientifique, c'est hyper, hyper spécialisé. Ce qui fait que la communauté des gens avec lesquels on parle, elle est internationale, parce qu'elle ne peut pas être franco-française en physique ou en maths. Les mathématiciens français parlent à tous les mathématiciens du monde et publient avec eux.
Je suis d'accord. Je reviens à l'état d'esprit des chercheurs. Voilà, s'ils ne sont pas bien évalués, ils ne vont pas vouloir publier. Voilà, tous ces modèles-là, il faut les changer.
Ah bah oui, oui.
Ils ne sont pas... Vous n'avez pas les clés pour les changer dans d'autres pays.
Mais en fait, y a les gens, ce qu'on est en train de faire ici en France, ça se passe ailleurs aussi.
Enfin, ça se passe partout.
Les gens, comme ce qu'on vient de vous dire, c'est que justement, quand on publie... Mais oui, évidemment.
Mais il y a des facteurs sociaux et psychologiques sont énormes. Et donc, nous, dans nos communautés agricoles, on était très contents d'annoncer des revues en open access. Sauf que les Africains, en fait, on leur a tellement... parler des prestigieuses revues à facteur d'impact, qu'une revue open access sans facteur d'impact, elle ne les intéresse pas. Donc...
Et il y a des déviances au niveau mondial qui sont très graves, parce qu'il y a des pays, je peux donner quelques noms, la Chine, le Chili, même j'ai des collègues d'université américaine, quand on publie, si je suis co-auteur d'un article avec eux, ils sont super contents parce que leur salaire est indexé sur l'impact facteur de la revue dans laquelle ils publient. Ils me disent « Ah bah oui », c'est-à-dire qu'ils nous poussent à publier plutôt vers telle revue parce qu'ils vont gagner de l'argent. Ouais, donc c'est absurde. Et l'impact facteur, c'est les publishers qui le contrôlent parce que c'est quand même eux qui décident quels sont les journaux qui sont mesurés.
Juste en rajouter une petite couche là-dessus.
Justement, enfin moi je suis complètement néophyte, oui. Je suis pas du monde de la science, mais tout ce que j'entends depuis le début de la session, et je vous en remercie, vraiment c'était passionnant. La question, on a l'impression que le peer reviewing, c'est la pierre angulaire de tout cet édifice, mm-hmm. Et là, apparemment on n'est pas dedans du tout au niveau de l'open. Il y a
non, mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
Parce que si c'est la
il y a cette idée, oui.
Non, ça c'est dans les idées de ce qu'on veut développer.
Je voulais préciser, dans les journaux qui publient en accès ouvert, les journaux que nous on considère comme des journaux scientifiques, ils fonctionnent avec le même modèle de peer review en général que celui des journaux sur abonnement. D'accord. Donc ça, il existe quand même. Après, on peut aussi parler de relecture ouverte, où le texte qui est produit, le rapport qui est produit par les référis peut être rendu public, le nom des référis peut être rendu public. Il y a des notions d'ouverture qui peuvent s'appliquer, mais pour l'instant, le modèle dominant, c'est la relecture qui est confidentielle, c'est-à-dire il y a l'éditeur et l'auteur qui savent ce qui a été dit sur l'article et qui prennent leur décision, mais le mécanisme est le même qu'on publie en open access ou derrière une barrière d'abonnement.
Oui, mais il y a urgence à le faire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'est que la qualité du peer reviewing baisse parce qu'on nous oblige à aller très très vite et on parle qu'à des robots. C'est-à-dire, traditionnellement, dans l'édition, là je parle de l'édition scientifique hyper spécialisée, le comité éditorial, c'est naturellement des chercheurs de notre domaine, étant donné que c'est tellement spécialisé, c'est les gens qui ont de la réputation dans le domaine qui sont dans le comité éditorial et qui choisissent les référis, c'est-à-dire qui connaissent suffisamment la communauté pour savoir quelles sont les personnes capables de juger cet article. Si on le fait faire automatiquement par un robot, c'est-à-dire le choix de quels sont les référis, là, on tombe sur des choses assez absurdes. Et comme je suis un chercheur qui publie encore, je reçois des rapports de référis, mais où clairement, la personne n'a pas compris mon article. C'est-à-dire, j'ai été référé par quelqu'un qui ne comprend rien. Alors, je fais à pile, c'est-à-dire, j'essaie de me défendre, mais si en face de nous, on a des gens qui ne sont pas vraiment compétents de la communauté, il y a un problème. Et c'est aussi pour ça, j'en profite pour le dire en passant. Vous le savez que la revue qui a le plus haut impact factor, vous le savez peut-être pas, c'est Nature. Mais Nature, pour moi, c'est pas du tout du peer reviewing. Pourquoi ? Parce qu'une revue comme Nature, les éditeurs, au sens éditeurs, ceux qui vont avoir la responsabilité du choix des référis et de faire le peer reviewing, c'est des employés de la revue Nature, c'est des professionnels, des gens qui ont une thèse, mais qui, à 30 ans, sont rentrés pour toute leur carrière chez Nature. Eh bien, c'est eux qui ont les plus hauts impact facteurs. Vous voyez toutes les déviances. Et moi, dans mon domaine, mes collègues, ils veulent toujours publier dans Nature parce qu'on se dit, oh, ben, c'est la loterie. Si on publie dans Nature, impact facteur de 30. Si je publie dans mes revues spécialisées, impact facteur de 1,5. Ah. C'est ça les rapports de force aujourd'hui. C'est grave. Ouais. Et alors, l'open peer reviewing va certainement améliorer tout ça parce qu'on verra les rapports de référis. Un autre élément qui est très important que je ne vous ai pas précisé, je vous ai dit que les plateformes qui font le peer reviewing appartiennent aux publishers. Mais résultat, tous les rapports de référis qui peuvent avoir valeur historique pour les historiens des sciences plus tard, ah ben ça disparaît. Je ne sais absolument pas ce que ça devient. Ça n'est jamais rendu public. Moi, je ne connais que les rapports de référis, soit ceux que j'ai écrits, soit ceux que j'ai reçus. Mais c'est absolument pas public et c'est perdu. Un publisher n'a aucune responsabilité quant à les garder, en faire à les publier. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle il faudrait insister pour que ce soit aussi open. Et ça assainira beaucoup la qualité des rapports de référis, parce que s'ils sont publics, on ne va pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on reçoit des rapports de référis de 3 lignes qui disent « Votre article est accepté, il est très bien, etc. » Ça, ça ne s'appelle pas un rapport de référis. Un rapport de référis, il faut qu'il y ait un résumé, qu'on ait la certitude que la personne l'ait lu, l'article.
Il y a des gens qui ont des questions. C'est traditionnel. Donc, j'ai participé au comité Episcience à ses débuts. J'ai arrêté pour faire ce que j'ai raconté là. C'est vrai, le peer reviewing, il se fait exactement comme dans n'importe quelle revue. Alors, c'est un choix qu'on a volontairement fait le choix de rester traditionnel parce que donc Episcience, c'est un projet qui permet de créer des revues qui vont s'adosser à une archive institutionnelle, c'est-à-dire que le chercheur va poser son article en accès ouvert vers dans son archive, dans HAL, dans Archive, et puis ensuite il va le soumettre, et c'est cette version qui sera utilisée pour la relecture, et puis quand il l'aura modifié, il va mettre à jour, et la revue va juste collecter en disant cet article, un pointeur vers l'article en disant cet article, on l'a relu, il est bon. Dans cette version, voilà.
Parce qu'il y a des versions dans les dépôts. Ouais.
Donc c'est l'idée, c'est que la revue, elle, c'est juste un tampon de qualité. Donc faisons-en carrément un tampon de qualité. Et voilà. Donc ça, c'est le projet Episcience qui est sur l'idée, ce qu'on appelle les overlay journaux. Et donc dans ce projet, c'est déjà un concept qui est pas, ça change pas grand-chose en pratique dans la vie de tous les jours. Mais c'était déjà une évolution qu'il faut faire passer auprès des collègues. Et donc on a considéré qu'il fallait poursuivre une bataille à la fois. Et donc là, ça a été, on a choisi de rendre ça des journaux aussi normaux et aussi légitimes que n'importe quel autre journaux. Donc on n'a pas cherché à ouvrir sur le côté...
changer de modèle.
Sur le reste du modèle. Voilà.
Pour l'Open Peer Reviewing, Open Edition a fait un travail extrêmement intéressant avec le travail de Julien Bordier, si tu veux bien nous en parler. C'est tout à fait remarquable. Ils ont fait une sorte de pilot pour tester dans la communauté, pour une revue de sciences humaines et sociales, de l'open peer reviewing.
Bon, en quelques mots, c'est une revue de sciences de l'environnement, une revue canadienne de sciences de l'environnement qui s'appelle Vertigo. Et pour ça, pour conduire cette expérimentation sur l'open peer reviewing, on a mobilisé notre plateforme Hypothèse. En fait, on a proposé aux auteurs qui soumettaient des articles dans cette revue de déposer leur brouillon, en fait, leur première version, sur le blog de la revue, sur la plateforme Hypothèse. Et du coup, on a tiré profit de la structure de commentaires. Alors, commentaires en bas de l'article ou de commentaires ligne à ligne en utilisant un plugin qui s'appelle Hypothesis pour proposer aux reviewers, donc aux évaluateurs de l'article, de publier leurs commentaires. Ce qui est très intéressant parce que ça permet aussi, du coup, comme tout est public, ça permet à l'auteur de répondre aux critiques éventuelles des évaluateurs. Et l'idée, justement, donc j'étais un peu déconcerté par la manière dont on a parlé jusqu'à présent du peer reviewing comme étant une sorte de oui ou non, de feu vert ou de feu rouge. Dans les disciplines dont je m'occupe, en fait, le peer reviewing est plutôt un dialogue entre un reviewer, une secrétaire de rédaction et un auteur, pour améliorer son papier. L'important, oui, c'est pas de dire si le papier est publié ou pas. L'important, c'est de dire, pour que le papier soit bon, il faut faire ça, ça, ça et ça et ça. Et donc, la question, c'est que l'évaluation se transforme en discussion scientifique sur le fond d'une recherche et sur le fond d'une publication. Et pour ça, la mobilisation du blog était un bon instrument pour le faire.
Non, dans notre communauté, bien évidemment, le peer reviewing, c'est exactement ça. C'est un dialogue qui peut être justement très long, parce que les différents référis proposent, trouvent des erreurs ou trouvent des choses à améliorer dans l'article, c'est renvoyé aux auteurs à qui on dit voilà, il faudrait changer ça, améliorer ça, etc. Et ça fait des cycles qui peuvent être très longs. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas accélérer le peer reviewing, parce que la base du peer reviewing, c'est d'enrichir, de vérifier les articles, de corriger les erreurs, de vérifier l'originalité aussi. Parce qu'un auteur, en toute bonne foi, il peut croire que son idée, elle est nouvelle. Et en fait, la communauté sait que dans un... quelque part, ça a déjà été publié. Et, mais à la fin, bien évidemment, la décision finale, quand même, en bout de tout ce cycle d'interaction entre auteur et référé, c'est finalement, oui ou non, c'est publié.
Oui, bien sûr,
c'est, ouais. À la fin, c'est quand même ça.
Oui, bien sûr.
Stop. Oui, mais là, l'intérêt, c'est que sur Twitter, par exemple, là, l'échange...
Il faut s'arrêter après, Marion.
Ils sont publics,
il y a des gens qui passent.
Ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Un des premiers effets bénéfiques, c'est le fait que le reviewer est responsabilisé, puisqu'il y a sa signature. Ouais. Et donc, un des effets bénéfiques, c'est que du coup, les reviews sont de bien meilleure qualité, beaucoup plus constructifs, en fait, que de désinguer un article en trois lignes sans dire pourquoi.
Bon, ben, je crois qu'on va peut-être lever la séance. En tout cas, merci à tous d'être venus. Et puis, on peut rester à discuter maintenant en privé, si ça vous intéresse.
J'ai envie de manger. Qu'est-ce qu'on fait?
Si ça vous intéresse, il y a des... Il y a des articles ici qui
m'intéressent.
Oui, bah, comme ça n'a pas été pris en vidéo, je suis un peu embêté, mais je vais les mettre sur un site. Si vous voulez,
non, mais pour être étonné. Normalement, on devrait les trouver.
Le prix, quand même, c'est le fondamental de l'étonné.
Mais si vous voulez, tout ce que j'ai entendu, j'ai le sentiment que le monde entreprise, le monde de l'économie, le monde profit, le dernier mot à prononcer, c'est le profit. Des gens
Déboucher sur quelque chose, on parlait de l'Afrique, hein, qui doit déboucher sur une amélioration. Ce qui me surprend, c'est qu'en Afrique, on vous dit que du fait qu'il n'est pas publié dans des choses extrêmement prestigieuses, vous n'avez pas écouté.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, on a une nuit. C'est sur un quart d'heure ici même. On va faire une transition. Merci.
L'atelier, je trouve que le système de la publication, c'est un peu de ça, complètement
phagocyté
par des grands
publics. Moi, c'est la session suivante.
Les questions d'immigration,
je suis d'accord avec vous. Moi, mon propos, c'est pour inspirer. Non, je prends la suite.
Ça s'installe pour la suite. Si vous voulez me donner la machine, je suis pas content.
Je me permets. Oui, allez-y.
C'est parce que je voulais pas qu'il filme, en fait, je voulais qu'il filme. Il m'a laissé le montrer.
Ah, d'accord, ça m'a pas.